Tard.
Tiens. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous nous retrouvons dans cette deuxième partie de podcast consacrée à l'entièreté de la filmographie de Jean-Marie Poiret. Je suis toujours avec Thomas. Est-ce que je te demande comment ça va?
Salut les kids! Eh ben écoute, François, moi ça va très bien, je dois l'avouer. Je suis un peu excité, énervé presque, de parler de cette deuxième partie de carrière qui est probablement ma préférée dans la carrière du grand, du seul, de l'unique Jean-Marie Poiret Rules the World.
Ouais. Alors, pour résumer, je me suis refait tous les films, parce que je tenais quand même à me refaire tous les films d'affilée. Je les ai faits en 2-3 jours. Et j'ai
Pas mal.
fini lundi au boulot, juste avant l'allocution de Macron. J'ai enchaîné sur l'allocution de Macron. Et alors,
Ah, c'est pour ça que t'étais énervé.
c'est pas que je compte, mais j'ai arrêté de fumer du tabac depuis le 25 septembre 2015. Et comme beaucoup, je pense, j'ai fauté, allez, entre une demi-douzaine et une douzaine de fois, je pense, en soirée. Mais la
Oui,
dernière fois,
oui,
ça date quand même. Tu vois, la dernière fois vraiment que j'ai fumé une cigarette, ça commence à dater. Et là, putain, j'ai jamais eu autant envie de fumer. Après avoir vu tous ces putains de films et après avoir vu l'allocution de Macron lundi, quoi.
ça peut se comprendre. Bah, du coup, moi, je les ai pas tous revus cette semaine parce que c'est vrai que ceux-là, je les connais bien et je les ai pour le coup tous vus plusieurs fois. Mais j'en ai revu deux ou trois et notamment certains, je pensais juste regarder juste quelques scènes et en fait, je me mettais à tout revoir. Tu vois, c'est un peu comme un film de Léon, tu regardes le début, finalement, tu regardes tout. Et je
Ouais, c'est
me
pareil, ouais.
posais la question quand même où je me demandais si j'ai pas un problème avec Jean-Marie Poiret parce que ça me fait quand même beaucoup trop rire. Voilà, je pose ça comme ça,
Ouais,
je.
mais il fut un temps, à Première, il y avait un journaliste qui s'appelait, ou qui s'appelle toujours Mathieu Caratier, qui fait autre chose maintenant. Et c'était lui qui était assigné au film de Jean-Marie Poiret, et il trouvait à chaque fois des très bonnes formules. Pour Les Visiteurs 2, il avait dit voilà, on rit, mais finalement, est-ce que les zygomatiques, c'est pas comme le sphincter, un muscle réflexe? Ben, ce qui, ma foi, était une bonne formule.
C'est
Et
vrai, c'est.
pour Ma femme s'appelle Maurice, c'est la première fois que je voyais la formule. Alors, c'est peut-être pas de lui, et puis je l'ai revu depuis plein de fois. De là à dire que c'est lui qui l'a inventé, je ne sais pas, mais il n'y avait pas les recherches Internet comme il y a aujourd'hui. Mais Pour Ma femme s'appelle Maurice, il avait dit, voilà, certains touchent le fond, d'autres prennent une pelle et creusent encore, quoi. Voilà. Et bon, c'est exagéré, c'est salaud, tout ce que tu veux, mais en même temps, je comprends.
D'autant parce que quand même dans la comédie française, on a vu des choses largement, largement plus craignos et compliquées à tous les niveaux, hein.
Oh, ouais, écoute, on va commencer avec quelque chose d'assez craignos, c'est compliqué, moi je trouve, mais on peut en discuter, hein. On s'était quitté la dernière fois sur Mes meilleurs copains, donc à
Voilà,
la...
sur un échec commercial
Voilà.
pour Jean-Marie.
Fin des années 80, un échec commercial, et Jean-Marie Poiret et Christian Clavier
Alors
font craquer leurs articulations, et ils se disent, et si on faisait quelque chose, si on testait quelque chose, et si on mélangeait le théâtre de boulevard au blockbuster à la série B américaine?
c'est exactement ça le truc, c'est une comédie d'action de boulevard où ils se sont dit clairement on va faire la nique aux Américains, nous aussi on peut faire des films d'action parce qu'on a une star de film d'action parce qu'il vient de chez Luc Besson, c'est Jean Reno, donc on le ramène chez nous. On mène ça avec notre humour si caustique, si particulier, et on va voir ce que ça donne. Et ça donne quand même
Et on casse
Opération
tout.
Corned Beef.
Et voilà, ça donne opération Corned Beef, putain. Et la justification du titre, j'avais oublié, j'ai fait,
C'est
mais je
génial!
me suis
Ah,
tellement pris la
la
tête dans les
scène
mains,
avec
quoi.
Jacques François! Ah
Ah
là
mon
là là!
Dieu. Alors c'est un film quand même pour vous situer un petit peu l'ambiance, c'est-à-dire là où on en est vraiment, où il y a le président de l'époque, donc François Mitterrand, qui est figuré hors champ par la voix de Didier Gustin. Didier Gustin,
Que devient-il déjà?
Déjà, que deviens-tu, Didier?
Si
Appelle-nous.
vous avez des réponses, chers auditeurs, chères auditrices, dites-nous que devient Didier Gustin?
Voilà, tag-nous sur Insta, Didier. Et non, et Didier Gustin, c'est un imitateur, mais vraiment à l'ancienne, quoi. Tu vois, c'était. Je sais pas
À
si
la
c'était
Patrick
lui
Sébastien.
qui faisait le bébé de show, mais
Ah, je sais pas,
à
peut-être. Bon, en
vérifier.
tout cas, c'est bien l'esprit, hein.
Mais c'est complètement dans l'esprit de Mitterrand. Voilà.
Alors là,
Vraiment ce
Mitterrand, alors
niveau
là.
d'imitation, quoi. Et encore, je suis assez étonné, je l'ai bien fait, tu vois.
Peut-être mieux que Didier d'ailleurs.
Voilà. Bon, de là à dire un mot ou une phrase, faut pas exagérer. Mais voilà, on est vraiment dans ce registre d'humour-là. Et waouh, et waouh. Donc on a Jean Reno qui joue un super agent secret qui est
Le squale.
le Squall. Putain. Oh, qui est sur les basques d'un trafiquant colombien. Il y a une sombre histoire de traductrice qui ne se rend pas compte dans quoi elle est mouillée, ce qui est assez ridicule d'ailleurs, hein, parce que.
Oui, parce qu'elle est quand même un peu con, hein, c'est comme.
Voilà. Donc c'est l'arrivée de Valérie Lemercier
Oui,
dans le
dans le game.
panorama du cinéma Jean-Marie Poiret, Christian Clavier, et déjà dans un rôle de grand bourgeois. Là, 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 là. Alors c'est moins forcé, quoique, que dans Les
C'est-à-dire
Visiteurs, où.
moins maniéré, oui.
Ouais,
C'est pas.
on en reparlera, mais dans Les
Oui,
Visiteurs,
mais
c'est
tu sens
fou.
qu'elle est en rodage, quoi.
Ouais, voilà. Elle teste des trucs. Elle teste
C'est
des
ça,
trucs.
exactement.
Et donc, en fait, pour que éviter que cette traductrice qui a un micro espion caché dans sa bague de fiançailles, qu'elle parte en week-end avec son mari, eh ben, il faut avoir une liaison au mari, qui est joué par Christian Clavier, c'est le notable
Voilà.
bourgeois un peu ridicule. Et donc, notre ami a une liaison passionnée avec une agent. Alors, est-ce que c'est la DGSE, les gentils, c'est la DGSE contre les salauds incompétents de la DST, c'est ça?
C'est la Direction générale des services extérieurs. Et à l'époque, il y avait encore la DST, à cette belle époque, avant que ça devienne la DGSI et que tout parte en sucette. Mais bon, c'est un autre problème.
C'est un autre podcast à part entière, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout ce setup un petit peu compliqué pour une histoire d'amant dans le placard, en fait, parce que l'agent qui
Exactement.
est choisi, bah, c'est la concubine, la fiancée de Jean Reno, et Jean Reno
Isabelle Renaud.
ne sait pas que c'est Isabelle Renaud qui a été envoyée pour séduire le personnage de Christian Clavier.
Parce que comme le demandait Jean Reno, c'est la seule meuf baisable du service. Donc du coup, parce que apparemment il n'y a que des gros boudins dans les espions français, donc du coup ils l'ont envoyé elle, un peu par défaut, mais
Ah mon Dieu.
voilà.
Et il y a le personnage de la seconde de
Ah
Jean
oui.
Reno, qui est une actrice, bon, qui est en surpoids, mais enfin qui joue par Mireille Ruffel, qu'on reverra d'ailleurs dans les Visiteurs. Et oh là là, oh mon Dieu. Voilà, tu as eu un niveau de langage pour décrire un petit peu la situation, et c'est totalement dans celui du film. Et encore, ça lui fait honneur, je trouve. C'est waouh, est-ce que c'est beau? C'est que c'est beau, putain de merde. Et on est vraiment dans ce système de quiproquo amant dans le placard. Ouh là là, non, n'entre pas. Ouh là là, cache-toi derrière ce
Mais
paravent. Oh mon Dieu.
un niveau poussé au-dessus en termes de d'agression verbale,
Oui.
et il commence déjà à faire de l'agression visuelle parce que vraiment, je crois qu'il n'y a rien qu'il aime plus que des personnages qui gueulent, quoi.
Oui, voilà.
À chaque situation, dès que c'est possible, il faut en faire des caisses. Et moi, en fait, quand je l'ai revu en fin de semaine dernière, je repensais à Ambulance de Michael Bay. Parce que Jack Gyllenhaal débarquait dans l'univers de
Ouais.
Michael Bay et je me disais, il s'accorde parfaitement bien, il ne part jamais du film, il ne fait que hurler. Et c'est exactement ça, il gueule en permanence dans le film et c'est comme dans un film de Jean-Marc Poiret, ça hurle tout le temps. Il n'y a pas un niveau sonore normal.
C'est vrai. C'est vrai. Et au niveau visuel, c'est là où effectivement, bah, ça prend vraiment une ampleur. On sentait qu'il se retenait sur ses films
Ouais.
précédents.
Mais là, en fait,
Là, ça y
tu sens
est.
qu'il a accès à un plus gros budget. Ça commence par une scène d'action en Colombie, où clairement, t'as l'impression qu'il essaye de refaire le magnifique de De Broca, avec un genre de super espion qui fout des bourre-pif, qui fait des super poursuites en bagnole, qui est genre un peu rigolo, coolos, machin, nanana. Évidemment, ce n'était qu'un rêve. Alors ça déjà en général c'est signe que ça démarre très bien.
Oui, tout à fait.
Et du coup là vraiment tu sens qu'il a plein de thunes et dès qu'il peut faire péter des trucs, qu'il peut faire des cascades en bagnole, et t'as vraiment l'impression que c'est genre l'un plus grand influence de Besson sur les taxis. Parce que c'est exactement la même manière d'aller filmer les cascades, de filmer les scènes d'action. même presque de monter, quand tu vois des trucs comme ça, t'as l'impression que c'est le truc qui a. Ou genre Besson s'est dit putain, mais en fait c'est genre chiant de filmer des foutus dauphins dans la mer, je vais faire des films d'action avec des bagnoles qui pètent quoi.
Ouais. Mais c'est même pas là où il est le plus énervé, en fait, vraiment, hein. C'est vraiment dans la
Non,
partie
c'est vraiment dans les scènes
vaudeville,
de dialogue.
dans les scènes de dialogue, dans la partie vaudeville. À partir du moment où Jean Reno comprend que sa fiancée, que c'est sa fiancée qui a couché avec Christian Clavier,
Où il démonte la bagnole de clavier.
Jean Reno devient complètement fou, en fait. Jean Reno devient psychotique, devient Hannibal Lecter. Il devient le Joker, hein,
Ouais, parce que
disons-le
en fait,
clairement.
tu sens qu'au début du film, il fait son truc un peu classique de héros d'action, un petit peu taciturne, qui sort deux ou trois bons mots, et du moment où il apprend que c'est Christian Clavier qui couche avec sa femme, là d'un coup, il devient complètement taré, et là, c'est genre open bar, hein, c'est les cris, c'est les hurlements, c'est les gros yeux, c'est les grands sourires de psychopathe. Il est absolument parfait.
Mais limite, non, c'est faux, non, c'est usant, en fait. C'est-à-dire que au début, pourquoi pas, c'est rigolo, sauf qu'il tient la partition, il tient la note tout le long, en fait. Et limite, moi, quand il y a des scènes d'action, ça me reposait, en fait. Ça arrêtait de hurler, et le montage était moins cut, bizarrement, aussi.
C'est un peu comme du jazz en fait, tu vois. C'est il y a genre
Non, non plus. Mais ok, ouais, vas-y, vas-y.
un petit soliste qui est derrière qui tient une note pendant 1 heure et demie, pendant que t'as des mecs autour qui vont semi-improviser en faisant un petit peu n'importe quoi dans leur coin. C'est un peu comme du free jazz, y compris en termes de montage, tu vois, parce qu'il va alterner des trucs ultra cut, notamment dans les scènes de dialogue, et on en parlait dans la première partie, le fait de ne laisser aucune respiration à la fin de ces lignes de dialogue et de couper directement à la prochaine réplique sans laisser un moment de répit, où c'est vrai que du coup, ça va tout de suite hyper vite, hyper vite, hyper vite, et ça, c'est les trucs dont il a souvent parlé dans ses entretiens, que c'est un obsédé du rythme et que lui-même il considère qu'il est un des 5 meilleurs monteurs du monde
Oui.
et que du coup il sait comment monter des scènes de dialogue et monter des scènes d'action pour qu'il y ait un rythme et que surtout ce qui est sa grande hantise c'est le temps mort. Et effectivement, tu sens que les temps morts ou des moments de respiration, il y en a quand même très peu. C'est comme si tu étais en apnée pendant 1 h 46.
Ouais. Mais c'est épuisant. C'est épuisant du coup. Et puis c'est sur une énergie.
Ah moi je trouve que ça passe à mort quoi. Du
Putain,
coup moi
oui.
je l'ai revu, j'étais là, j'étais putain, genre à la fois c'est hyper drôle, j'aime bien les scènes d'action, j'aime bien les blagues pourries sur les espions, je regardais ça avec un plaisir non dissimulé. Et en plus, il y a ce truc au début, pendant la poursuite à Bogota, à un moment donné, ils défoncent un camion où t'as genre des tonnes de ballons de foot qui explosent et puis les gamins vont jouer avec, ils vont aller faire chier les trucs qui pourchassent Jean Reno. Et alors tu vas me dire que j'abuse, mais j'ai pensé à Black Mask 2 de Treyarch, où c'est la même chose, c'est genre ok, on a genre accès à un camion avec plein de ballons de foot, ça ne coûte rien, on va l'utiliser. Comme Treyarch sur Black Mask 2, mais avec des éléphants.
Oui,
C'est
bah.
un peu la même logique de prendre ce qu'on a sous la main et de l'utiliser pour en faire une scène d'action. Peu importe si c'est cohérent ou pas, ou si ça marche vraiment, vu que c'est pas cher.
Alors,
C'est l'esprit de débrouille.
Julien Carbon, le scénariste de Black Mask 2, je sais qu'il écoute certains épisodes. Julien, je suis désolé si t'écoutes. Si t'écoutes, je sais que Black Mask 2, c'était compliqué, hein, que c'était un petit
Ah
peu
ouais,
petit
en plus,
bonheur à la chance, mais
à chaque fois qu'il parle du tournage, en tout cas, ça.
oui, alors. Je regarde Opération Corned Beef avec mes yeux de gauchiaste quarantenaire de 2023, et c'est pas possible. Il n'est pas possible, ce film, quoi, en fait. Comme je te dis, moi, j'ai l'impression de revoir le Bébé de Chaud, j'ai l'impression de voir du Jean Roucas, j'ai l'impression de voir du Stéphane Collaro, j'ai l'impression de revoir tous ces trucs interdits des années 80, en fait.
Ouais, tu sens vraiment que ce côté, genre, on va faire un best-of de l'humour de la fin des années 80 pour genre boucler la décennie, et on va mettre strictement tout ce qui est possible en termes de vulgarité, en termes de blagues sur les grosses de plans nichons. Dès que c'est possible, on case, comme ça on coche notre to-do list. Et t'as vraiment le best-of des années 80 dans les scènes d'action, dans les scènes de dialogue, même dans tous les second rôles qui peuvent apparaître. T'as l'impression que c'est un best-of ou worst-of peut-être pour certains, mais d'où ce côté un peu film mash-up.
Ouais. Le que je retiens du film par rapport aux autres, par rapport à la saga Les Visiteurs et puis par rapport à d'autres films, c'est que là, pour le coup, il y a pas trop de haine des pauvres, puisqu'il n'y en a pas des pauvres, ça n'existe pas.
Non,
Ça n'existe
bah non,
pas.
parce que c'est vu que c'est un film entre un petit bourgeois de province et un super agent secret, ils n'ont pas leur place dans cet univers-là.
Non, c'est non. Ah, quel enfer. Quel enfer. Mais tu as évoqué le sujet un petit peu, je crois qu'on avait un petit peu teasé aussi la fois dernière. Effectivement, Jean-Marie Poiret, c'est quelqu'un qui se tient en très, très haute estime finalement.
Oui, ah oui. Et ça, tu le vois souvent, c'est que il est très très sûr de lui, il est très sûr de ce qu'il fait, et il a rarement fait d'erreur. En tout cas, à l'écouter. C'est que vraiment, il dit, en termes de mise en scène, il sait ce qu'il veut. Et en fait, quand tu lis des entretiens, t'as l'impression d'entendre Ridley Scott qui raconte exactement la même chose. Il fait, quand je rentre dans une pièce, je sais où je vais mettre ma caméra, là, 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 et je sais tout le style de montage, comment est-ce qu'il va être. Et Jean-Marie Poiret, c'est pareil. Après, leurs cinémas sont très différents pour le coup, mais tu sens que t'as la même arrogance en fait et la même assurance de mise en scène. Sûr de son génie, quoi.
Et là, ça commence à se voir parce que il commence à apparaître dans les génériques de fin.
Oui.
Il aime bien se mettre en situation en
Ouais.
réalisateur, en Michael Bay, en fait. C'est-à-dire vraiment en
Ouais,
réalisateur sur le vif, sur les grues.
il apparaît dans plusieurs de ses films, et quand c'est pas des caméos, il essaye d'apparaître dans le générique de fin. Générique de fin où en général, il met des petites blagues en plus. Genre, il dit un petit bisou à ceux qui regardaient le générique jusqu'à la fin. Aucun animal n'a été blessé durant le tournage, à part Christian Clavier. Enfin, je sais pas, tu vois. Genre des machins comme ça, quoi. Et effectivement, il apparaît, parce qu'il aime bien aussi, du coup, mettre des scènes de making-of dans ses génériques de fin. Il y a ça donc dans Corned Beef, il y a ça dans Les Visiteurs 2, il y a ça dans Les Visiteurs en Amérique, à la toute fin des Visiteurs 3.
Un peu dans Ma femme s'appelle Maurice aussi.
Oui, ah bah ça fait. Ah oui, ah oui.
Mais ne disons rien pour le moment, ne disons
N'allons
rien
pas
pour le
trop vite en
moment.
besogne, gardons le meilleur pour la fin.
Donc Opération Corned Beef est un succès correct au box-office. Il fait 1,5 million d'entrées, un petit peu moins, mais ça va. Ça remet Jean-Marie en confiance. Et avec Christian Clavier, ils vont
Son
écrire,
partenaire de crime.
voilà, ils vont écrire leur magnum opus, Les
Ah bah.
Visiteurs.
Qui a été un projet qui a apparemment été assez difficile à monter parce que Alain Terzian était pas super chaud pour faire un film où des mecs parlaient en vieux français, avec des scènes au Moyen-Âge parce que ça plaît à personne, c'est chiant, nanana. Et Jean-Marie Poiret et puis Christian Clavier apparemment se sont quand même pas mal battus pour imposer on va dire, leur vision des choses, leur vision de auteur auprès de Terzian. Et du coup, effectivement, ça donne Les Visiteurs qui, pour le coup, étaient un surcarton, genre 14 millions d'entrées, je crois, un truc comme
Un
ça.
petit peu moins, ouais, on est sur 13, 13,
Ouais, mais non, c'est quand même. Enfin, c'est genre le plus gros succès depuis La Grande Vadrouille, à l'époque.
ouais.
Ce qui était quand même pas rien. Et effectivement, c'est là qu'ils arrivent à mettre en branle la formule que je dirais gagnant, en tout cas pour eux, au box-office. Après, moi, Les Visiteurs, c'est pas un film dont je suis super fan. En tout cas, le premier. Parce que je le trouve justement encore un peu light, tu vois.
Pourtant, ça commence, hein. Ça commence. Bah, dans Opération Corned Beef, c'était vraiment sur la frénésie du montage.
Ouais.
On n'était pas encore sur les focales qui pètent les plombs. Là, on
Non.
y est.
Et
Là, on y est,
ouais, parce
vraiment, hein.
que même Christian Clavier dans Corned Beef, tu sens qu'il amorce sa voix de Louis de Funès-isation. Qui va porter, genre, qui va faire exploser eux dans Les Visiteurs, où clairement c'est son modèle absolu en termes de jeu. Mais c'est un peu comme moi quand j'imite Jodorowsky, quoi, tu vois, c'est un peu le même niveau. C'est-à-dire que ça fait rire les copains, mais c'est pas sérieux.
Il n'y a pas de quoi tenir une émission entière non plus. Mais
Voilà.
une moitié, ça va.
Voilà, à la limite.
Les visiteurs. Alors 13 millions 7 d'entrée, presque 13 millions 8, très objectivement, très factuellement, c'est le film le mieux écrit
Ah oui.
de tout ce qu'on a après, en fait, et de tout ce qu'on a eu jusqu'à présent sur le binôme Poiret-Clavier, hein. Il y a effectivement une ambition, il y a un regard, il y a des constructions de personnages qui sont...
Y a des arcs
Il y
narratifs.
a des arcs narratifs. Et il y a, par rapport à tout ce que je disais, vraiment quelque chose qui va devenir le thème vraiment, mais fondateur de la saga. Et là encore, gauchias, wokisme, ce que vous voulez. Mais il y a cette putain de haine des pauvres, quoi. qui sort et de cette voilà, no noblesse des nobles et de la bourgeoisie, cette haine des nouveaux riches, voilà, cette haine du peuple. Enfin, c'est waouh, c'est le film est pas trop tant d'axes à d'autres niveaux.
Oui, mais écoutez, monsieur Co,
Oui.
j'ai envie de vous dire. Le côté politique de Jean-Marie Poiret, finalement, c'est un peu comme dans un film de Bronson, tu vois. T'as beau, genre, être de gauche, tu dis, ouais, quand même, c'est quand même super cool de le voir foutre sur la gueule à des jeunes marlous. Bah, là, c'est
Ouais.
pareil chez Jean-Marie Poiret. Genre, clairement, les pauvres, c'est pas son kiff. Mais j'ai envie de dire, au cinéma, quand la vanne est bonne, elle est bonne.
Oui. Non, mais ça va surtout être gênant dans les deux autres. Là, tu vois,
Dans le 3, surtout, ouais.
tu sens pas que c'est vraiment un état de fait, un état des lieux, une réflexion.
Non, c'est
Tu
plus
vois,
que.
c'est du
C'est
comique de
plus, je trouve que
situation,
c'est.
quoi.
Voilà, c'est un ressort comique qui, pour lui, ou peut-être chez lui, marche bien, notamment avec le perso de Marianne Chazelle, Ginette.
Ouais.
Merci la gueuse, tu es un laideron, mais tu es bien bonne.
C'est
Où
ça.
tu sens qu'il prend un kiff absolu à la rabaisser, à montrer que non seulement elle est pauvre parce qu'elle vit dans un trailer park et qu'elle s'habille avec des sacs poubelles, mais en plus elle est veule, comme tous
Mais
les
oui.
pauvres qui sont jaloux.
Et même quand elle a de l'argent, elle le dépense n'importe comment, elle fait n'importe quoi, elle marche sur la piste de bowling, cette
Voilà, c'est
malpropre.
ça, exactement, parce que c'est bien connu que les pauvres, quand ils ont de l'argent, ils vont profiter pour acheter 4 téléviseurs.
C'est ça, mon Dieu. Parlons de la mise en scène, parlons de ces putains de focales, parlons de ces putains de gros plans en amorce, contre-plongée, fisheye ou vraiment courte focale. Avec les Jean Reno et Christian Clavier qui hurlent.
Ah oui, et on lui pèlera le jonc au
Voilà.
bailli du Limousin.
Exactement.
Mais c'est marrant parce que autant le début du film, toute la partie Moyen-Âge, tu sens qu'ils ont genre vraiment mis de la thune quand même en termes de décor, en termes de costume, même en termes de filmage, il est relativement soft par rapport on va dire à la période moderne du film où il essaye de faire des efforts pour montrer qu'il fait un vrai film, qu'il y a de la thune, que c'est bien fait. Même en termes de photos, c'est franchement pas trop dégueulasse quoi, c'est même plutôt joli. Et une fois qu'ils arrivent dans le monde réel, dans un genre de Buffalo Grill ou un petit campanile ou je sais pas quoi,
C'est un
là d'un
courte-paille, je
coup,
crois,
ouais, un courte-paille, ouais. Autant pour nous. Et
ouais.
donc c'est pour ça qu'effectivement, et là c'est à partir de ce moment-là qu'il va commencer à partir dans ses envolées formelles ou même son montage s'emballe. T'as l'impression que il sait plus quoi faire de ses doigts sur son montage, sur sa table de montage, et que il tente plein de trucs et il se dit même si ça marche pas vraiment, on garde quand même parce que l'énergie est là. C'est une énergie aléatoire du montage, tu vois.
Oh, c'est tellement fatigant. Mais après, je me rappelle, hein, quand le film est sorti, j'avais 13 ans, c'était un phénomène. J'étais allé le voir deux fois au cinéma. Les gens applaudissaient à la fin pendant le générique, applaudissaient à la fin quand il y avait le truc salut à ceux qui restent jusqu'au bout du générique de fin.
Et voilà.
Voilà.
Avec la musique de Eric Lévy qui avait cartonné aussi, qui est un rip-off total du thème de Michael Kamen sur Robin des Bois, Prince des Voleurs,
Tellement.
mais remixé avec des chœurs et puis des gros claviers, mais qui du coup marchait. C'est pareil, enfin, c'est une bande originale qui s'est bien vendue. Le thème est encore remis dans des pubs ou des machins comme ça,
Ouais.
par Enya.
Absolument. Et oui, mais je me rappelle, tout le monde se disait les répliques à la cour de récré. C'était un phénomène, vraiment. C'était les effets spéciaux, les fameux effets spéciaux
Ah bah ouais.
de voyage temporel où les visages se déforment, à l'époque, c'était dément. Moi, je regardais
Bah,
ça à 13 ans, je me disais, mais waouh, on peut faire ça au cinéma, quoi.
les Américains à l'époque, ils avaient Jurassic Park, et bah nous on avait les visiteurs.
Voilà.
Tu vois, en termes de sidération visuelle grâce aux effets numériques, c'est équivalent. C'est kiff-kiff bourrico, j'ai envie de dire.
Ah mais Steven lui-même.
C'est dit, Mother, goddamn, Jean-Marie Poiret, he's real good, man!
Voilà. Très très bonne imitation de. Si tu le tiens aussi bien, tu le tiens aussi bien que Jodo, je crois.
Qui paye? Parce que Steven, c'est bien connu, il parle vraiment comme ça.
Et tout à fait. Tout à fait. C'est un film. J'ai pas vraiment envie de tirer dessus, mais c'est par rapport aux autres en fait. C'est que voilà, comme je te dis, je reconnais que c'est mieux construit, mais après, voilà.
Après, moi, les visiteurs, j'ai un rapport un peu particulier parce que j'ai presque envie de dire qu'entre guillemets, c'est un film qui m'a sauvé la vie.
Oui, d'accord.
Attention, ça va être une anecdote passionnante. C'était il y a genre, je sais pas, 15-20 ans, je dirais vers 2005-2006. J'étais encore tout jeune, hein, parce que moi, je n'ai que 18 ans. J'étais à un concert de punk dans la campagne bretonne. Donc évidemment, genre avec des mecs qui jouent fort et des gens surbourrés partout. Et il y a un moment, t'as donné, je vois à l'extérieur de la salle, t'as un mec en genre plus arraché que les autres. Il avait genre des pompes orange fluo. C'est un détail qui m'a surpris. Et je me dis, ce garçon-là ne va pas durer longtemps. Un peu après, je suis dans la salle. Je bois une genre de bière tiède comme on boit à des concerts de punk. Probablement une 8600 canettes. C'est à peu près ce que je buvais à l'époque.
Sure.
Et là, ce même mec revient. Je sais pas comment il a réussi à rentrer dans la salle, ni même à retrouver son chemin, mais il est dans la salle. Et je me dis, putain, faut absolument pas que je croise son regard, parce que ça, c'est le genre de relou typique qui va venir te parler. Banco! Le mec se dirige vers moi avec une démarche pas super rassurée, et je vois qu'il a un tesson de bouteille dans la main. Et là, je me dis, genre, mais comment est-ce qu'il a réussi à rentrer dans la salle, quoi? Et donc le mec me vient, et comme évidemment c'est un mec qui est surbourré, c'est des gens qui ont tendance à te parler très très près de l'oreille. Et donc moi j'ai beau genre me décaler et me pencher, le mec se penche aussi pour genre me parler à l'oreille. Et il me fait, moi je m'appelle Goulven! Parce qu'évidemment genre le mec il avait vraiment un prénom de breton à la con quoi, Goulven. Il me fait, ouais Goulven! Oui bonjour, il me fait, et là je comprends pas pourquoi il me fait, est-ce que t'aimes le cinéma? Alors du coup moi je suis un peu pris au dépourvu, parce que je lui dis que je pense que la réponse va importer sur son ressenti, et comme il a un tesson de bouteille dans la main, j'ai pas envie de faire d'impair. Et là je fais ouais, il fait, ah ouais, moi mon comédien préféré c'est Christian Clavier. Et j'ai un moment de flottement, tu vois, je me dis
Ah
genre
bah
il
oui,
fait
bien.
ah ouais cool, ah c'est ok. Et là j'ai senti dans son regard genre un truc qui a pété, il fait oh ouais, c'est ok, c'est ok. Il se retourne vers genre les gens de la salle, il fait c'est ok, c'est ok. Donc il me tourne le dos, j'en profite pour me carapater. Le mec va, ah, c'est ok, c'est ok. Et je dis, ah oh, mon Dieu, j'ai échappé à la mort certaine
Ok.
grâce à c'est ok de Christian Clavier.
Oui, mais y a pas que ça. Et ça va devenir sa carte de visite, vraiment. On trouve une réplique et on la répète en hurlant.
Ouais.
Parce que mort cérébrale
Crunch dans le
sensuelle.
deuxième.
Et voilà, hurrah, c'est plus laïque. Voilà.
Bah, tu sens que c'est le leitmotiv en fait du film, quand Christian Clavier il chope un truc, il se dit, ah ça c'est drôle, on va mettre un mot américain dans la bouche d'un plouc du Moyen-Âge. Décalage, humour.
Tout à
Et quand
fait.
ça marche une fois, ça marche toutes les fois.
Tout à fait, tout à fait. Non, mais écoute, moi, je dirais que le truc qui a le plus vieilli dans les visiteurs, c'est le jeu de Valérie Lemercier. Vraiment.
Ouais, qui a un jeu qui est très marqué parce qu'elle fait un truc surmaniéré. Je pense aussi que ça vient des indications de Jean-Marie Poiré,
Évidemment,
parce que
évidemment.
visiblement elle en a bien bien chié sur le tournage, et elle s'est pas entendue du tout avec les deux, alors que ça s'est plutôt bien passé sur Opération Corned Beef. Mais sur celui-là apparemment c'était hyper tendax, et tu sens que elle se demande à un moment donné quel rythme donner à son personnage. Et le phrasé, à la fois, donc il y a effectivement un truc qui n'est pas du tout naturel, parce que même chez les vieilles connasses bourges, c'est un truc qui n'est pas du tout naturel, c'est beaucoup trop surjoué. Une fois de plus, c'est un jeu qui est beaucoup trop presque théâtral du théâtre de vaudeville par rapport au ton du film, alors que ça collait plus dans le précédent. Et effectivement, c'est peut-être l'élément du coup le moins drôle, et celui qui a le moins bien vieilli, et qui pourtant ils vont garder pour la suite, mais avec un résultat encore plus
Oh mon Dieu.
étrange.
Mon Dieu. On n'y est pas encore, mais non, ça fonctionne sur les répliques courtes, les répliques
Ouais.
emblématiques que tout le monde a retenues.
Merde, putain, chier.
Si vous voulez, je peux vous dépanner de 50 balles, pas avec votre poncho, mais dès qu'elle doit, en fait, aligner plus de 2-3... Enfin, putain, arrête de rire. Arrête de rire à ça, je t'en supplie. Dès qu'elle doit aligner plus de 2-3 répliques, en fait, tu la sens qui patine, en fait. Et tu vois vraiment le décalage avec
Le désespoir.
son personnage du 12e siècle, en fait.
Ouais.
Où là, ça va. Là, c'est fluide, ça colle, elle n'a pas à faire une espèce de pantomime.
Elle joue exactement de la même manière en 1164 ou en 1992. Du coup, t'as l'impression que le perso, c'est genre le même, sauf qu'il a plus les mêmes fringues. Et finalement, le décalage, du coup, ne fonctionne pas comme il devrait. Comme le comportement est le même.
Ouais.
Un problème d'écriture.
Je trouve que ces scènes au Moyen-Âge se passent mieux, en fait. C'est
Ouais.
étonnamment bien écrit, vraiment. C'est quelque chose qui va faire défaut, justement, aux visiteurs croix. Bon, on y arrivera. Mais oui, c'est étonnamment bien écrit, justement, ces scènes au Moyen-Âge. Tu sens qu'ils ont bossé, en fait. Tu sens qu'ils ont
Ouais, voilà.
vraiment poussé
Bah,
le
tu sens que ça les
truc.
intéressait, cette période-là
Ouais,
aussi.
voilà. Après, pareil, c'est le côté un peu gras et dégueu, tu vois, et ripailleur, et...
Oui, c'est le côté de l'ère médiévale un peu festive, un peu
Voilà.
folklorique.
Bon, est-ce qu'on est prêt? Parce que putain, à chaque fois, en fait, on monte une dizaine de marches d'un coup dans le zbeul, en fait, vraiment. Et
Et
là,
alors là,
on...
putain, alors celui-là, énorme carton les visiteurs, sur carton, là c'est même plus qu'ils ont la confiance, hein, c'est que c'est genre, c'est les rois du pétrole. Les
Effectivement,
mecs, c'est les rois du monde.
c'est
Et
ça.
Claude Berry, à côté, c'est un figurant.
C'est un pleutre, monsieur.
C'est un pleutre.
Et donc, on arrive à ce film,
Que
waouh!
j'adore.
Mais vraiment étrange. Les Anges Gardiens,
Voilà.
1995. Allez.
Voilà. Donc là, Jean Reno, out, exit. Et
Ouais.
là, ils se disent, ok, on va prendre la plus grosse resta française, quoi. Qui avant était, oui, non, je sais pas, moi faire des films comme ça, machin, machin. Du coup, tu ramènes qui? Tu ramènes Gérard Depardieu. Et là, autant dire que ça prend quand même une toute autre dimension parce que Gérard, non seulement il est à l'aise, mais il est beaucoup trop à l'aise. Parce que c'est quand même un film bizarre qui a aussi coûté plein de thunes, qui a été remonté pour être réduit à 1h53, ce qui, pour dire, pour l'ambition narrative du film, j'ai envie de dire, est beaucoup trop peu. Parce que là, enfin, on va en reparler, mais sur la question du rythme, ça s'en ressent. Ils ont coupé, je crois, ils en parlaient dans le making-of, quasiment 1 heure de film à Hong Kong au début. Ça durait 1 heure. Parce que l'intro du film donc, se passe à
Ça
Hong
veut dire que
Kong.
le faisait presque 3 heures, quoi. Mais c'est
Mais
fou,
putain,
c'est fou.
mais. Et malheureusement, toutes les bandes master, apparemment, la majorité des bandes ont été perdues. Donc on n'aura jamais de
Oh
Jean-Marie
non!
Poiré cut
Oh non!
des Anges Gardiens. Ça, par contre, ça fait bien chier. Si un jour des historiens, archivistes du cinéma retrouvent tout ça, moi je suis carrément preneur. Hein. C'est comme la version longue de Seven Sword ou de The Grid de Von Stroheim, tu vois, c'est un peu genre des fantasmes de cinéphiles.
Le film de Jerry Lewis, tout ça,
Voilà, exactement, tout ça, c'est
ouais. Et ouais, même
boulet
chose.
blanc, blanc bonnet.
Les Diables de Ken Russell, etc.
Voilà, c'est ça.
Et alors, l'histoire, rapido, c'est un tenancier de boîte de nuit sexy, on va dire ça comme
Antoine
ça,
Carco,
Antoine Carco,
c'est
qui est
ça.
joué par Gérard Depardieu, qui reçoit un coup de fil d'un de ses vieux copains, ma poule, comme il l'appelle, Bacaille, je sais
Yves
plus.
Régnier.
Yves Régnier, qui est joué par Yves Régnier, voilà, tout à fait, qui est à Hong Kong, qui
Yves
s'est pris.
Régnier, la pince dit ma poule.
Tout à fait, qui s'est pris quelques bastos dans le buffet et qui lui demande de
Des
s'occuper de
bonnes
son
bastos,
gosse.
ça, quand même.
Voilà. Et qui lui demande, dans une cabine téléphonique, de s'occuper de son gosse. Et qui
Bao.
se fait, Bao, qui se fait, pendant qu'il téléphone avec lui, il se fait emboutir par un camion. La cabine téléphonique se fait emboutir par un camion. C'est une des scènes incroyables du film. Mais on va y revenir.
Et ça, c'est au bout de 2 minutes. Hein.
Voilà, ce bout de 2 minutes. Et alors, arrive Gérard Depardieu à Hong Kong, s'ensuit quelques scènes d'action qui n'ont ni queue ni tête. Il croise le personnage de Christian Clavier, qui est un prêtre en goguette à Hong Kong avec des jeunes de quartiers difficiles. Et les deux, en fait,
Avec
vont
Julien
se.
Courbet quand même hein, dans
Avec
l'Écosse.
Julien
Hein.
Courbet, tout à fait. Alors, pas l'animateur, mais Julien
Non,
Courbet,
mais
EY.
l'acteur qui était déjà insupportable quand il avait
Voilà.
15 ans.
Le ciel, les oiseaux et ta mère, tout ça.
Le raid.
Et le raid, effectivement. Et les deux, en fait, se retrouvent compagnons d'aventure, à devoir s'occuper de ce môme, retrouver sa mère, récupérer le pognon de Yves Régnier. Et au milieu du film, sans que ce soit vraiment expliqué, exploité, rationalisé de façon
Amorcé même.
cohérente ou amorcée de quelque façon que ce soit, apparaissent leurs doubles négatifs, leurs anges gardiens, donc une version positive du personnage de Gérard Depardieu, et une version azimutée du bulbe et du gland pour Christian Clavier, quoi. Et après, déjà que le film n'était pas facile, là, on bascule dans une dimension cinématographique inédite dans le paysage français. Vraiment, pour le coup, hein, on est dans de la cocaïne partout.
Non mais
Cocaïne partout,
c'est
justice nulle
génial
part,
parce
quoi.
que
Alors, c'est
dix ans
génial. Non,
avant
non.
non
Bon, nous.
10 ans avant Tarantino et Rodriguez, il a fait le Grindhouse, hein, deux films en
Oui,
un, un double programme.
c'est vrai. C'est vrai. Trois films en un, parce que t'as ça, et puis t'as le côté actionneur, avec, je sais pas dans quelle mesure, Jean-Marie Poiré n'est pas imbibé de cinéma de Hong Kong et c'est pas de l'émuler de façon désordonnée.
Tu vois les 25-30 premières minutes qui se passent donc à HK. Lui-même disait qu'il était fasciné par la ville, comme de toute façon tous les cinéastes qui sont passés là-bas, et tu sens vraiment qu'il y a un truc qui irrigue où, en termes de second rôle, en termes de mise en scène, en termes d'action, en gestion de l'espace de la ville, tu sens que c'est. Je sais pas si c'est un truc qu'il essaye d'émuler, mais en tout cas, tu vois que c'est un truc qui le fascine, que c'est un univers de cinéma où il se dit putain, eux ils font des trucs qu'on a strictement jamais vu ailleurs, ni au Japon, ni en Chine populaire, ni aux USA et encore moins en Europe. Il se dit, je vais essayer d'importer ce truc-là, ou l'importer ou de le voler à sa manière, et d'essayer de le montrer au public français, parce que d'autant que milieu 90, il y avait quelques films de Hong Kong qui arrivaient en France, mais c'était pas forcément en salle, tu vois, enfin, tu connais mieux que moi, mais c'était plus par la vidéo, par les VCD, les machins comme ça, donc c'était plus, on va dire, réservé presque à un public d'initiés ou bien de cinéphiles. Et tu vois vraiment que c'est un truc qui irrigue, où il se dit, oh putain, on peut tourner dans la rue sans aucune autorisation, allons-y, on va faire des scènes d'action, on va faire n'importe quoi, on va mettre des personnages qui gueulent, on va aller faire une course-poursuite sur le fleuve, pas de problème, nique sa mère, quoi. C'est la détente.
Nique sa mère, exactement. Non, et pour revenir sur le cinéma de Hong Kong, parce qu'il m'a halluciné, j'avais pas vu le film depuis le cinéma, donc depuis 20, 25 ans, quoi, grosso modo.
Comment t'as pu vivre pendant 25 ans sans le revoir, François?
Bah, j'en avais un souvenir de j'en avais mal.
Marquant.
Il y a quelques films qui m'ont fait mal à la tête, et sans rien, sans substance, sans rien. Il y a Les Anges Gardiens, il y a L'Enfer du Dimanche de Oliver Stone.
Ah oui.
Il y en a quelques-uns comme ça qui m'ont. Je suis sorti, j'avais mal à la tête.
Moi j'avais un pote qui a le même âge que toi, il avait dit quand il a vu Les Visiteurs, il s'est dit putain c'est genre mortel, c'est génial. Et 2 ans après il est allé voir Les Anges Gardiens, il m'a dit c'est la première fois où je me suis dit qu'un film était vraiment de la merde et les mecs qui l'ont fait c'est que des cons.
Alors,
Genre quand tu passes de 13 à tes 15 ans, tu dis waouh mais nom de Dieu c'est pas possible.
et non, bah, sur le côté problématique du cinéma de Jean-Marie Poiret et Christian Clavier, là, c'est quand même borderline raciste sur les Hongkongais, les Chinois, mais c'est des blagues de l'époque. Tu vois, à quoi s'attendre? Tu vois, mais c'est même pas les pires. C'est même pas les pires que j'ai pu voir dans un truc comme ça.
Même dire que pour l'époque, c'est pas forcément des blagues de l'époque, parce que pour le coup, le racisme anti-chinois en France, même encore maintenant, c'est beaucoup, beaucoup trop présent. Hein. Et tu sens que c'est des blagues qui, je pense, passent encore crème. Hein.
Ouais. Non, il y a des. Par exemple, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu sont pires à ce niveau-là. Vraiment.
Ah oui, ah
Tu
putain,
vois,
ça c'est ignoble.
vraiment. C'est plus sur le côté. Tu vois, on disait, quand il écrivait avec Balasko, les personnages féminins
Ouais.
étaient un petit peu soignés. Là, c'est des seins sur pattes, hein. Enfin, c'est les personnages féminins, c'est des seins. Voilà,
Soit
c'est
une
tout.
pute, soit une craquette, soit une vieille bigote.
Voilà, c'est vraiment ça.
Basiquement, hein.
On est vraiment là-dedans. Et moi, le seul truc là où je me suis demandé, effectivement, mais tiens, Jean-Marie Poiret connaît peut-être bien le cinéma de Hong Kong, c'est que il y a un homme de main des Triades, et le principal, en fait, celui que tu vois, celui qui tue Ivan Reigné, c'est un acteur de second plan dans le cinéma de Hong Kong des années 80-90 qui s'appelle Frankie Chin. Et pour ceux qui voient, il joue dans Story of Ricky. C'est le mec qui essaye d'étrangler le héros Ricky Ho avec ses entrailles.
Autre film très très excessif.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
On peut le dire.
Ah, tout à fait, on peut le dire. Et donc voilà, quel bel film, Frankie Chin, Story of Ricky, Les Anges
Ah bah.
Gardiens, je veux dire.
Moi je veux dire, le mec il peut mourir tranquille. Hein.
C'est ça.
Robert De Niro à côté, c'est vraiment de la merde.
Oui, c'est ça. Le run Bertolucci Coppola, ça
Hein.
va,
Enfin,
quoi.
c'est
C'est bon,
pas.
ça va,
On a
quoi.
beaucoup exagéré. Hein.
Alors que Nam La Choy et Jean-Marie Poiret, ça envoie.
Bah, c'est quand même pas mal.
Donc, on a évacué les aspects problématiques, entre guillemets. Non, le truc, c'est que là, vraiment, en termes de style, ça devient difficile à suivre, vraiment. Enfin, moi, je trouve, en fait. Et c'est là où, par exemple, tu vois, le côté... La punchline de Christian Clavier dans le film, c'est le père Tarin, Tarin comme pain.
Aïen comme pain.
Voilà, la blague est pas drôle. Et il la répète au bas mot 20 fois, quoi. Et moi, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus à la fin. Et le film est animé d'une frénésie dans le montage, dans les dialogues, dans ces putains de plans en courte focale à 2 cm du
Et
visage où
sur,
tu
en
vois
plus,
l'intérieur des narines de Depardieu et Clavier,
le
ou
narinoscope.
le narinoscope, ouais, putain, mais c'est...
Et je dis, en plus, c'est un truc comme en gros, il devait livrer un montage de moins de 2 heures. Surtout sur les 20 dernières minutes du film, tu sens qu'ils disent, oh putain, on n'a plus le temps du tout, on va rusher comme des oufs. Et le climax, c'est littéralement mes 4 bourre-pifs montés sur 22 plans. Et c'est expédié, t'es wow, mais genre, mollo mollo quoi, c'est beaucoup trop rapide. Enfin, vraiment, en plus, au fur et à mesure du film, tu sens que le montage s'accélère de plus en plus. C'est comme un crescendo quoi, c'est vraiment speed, 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 speed.
T'as plein de scènes où je me disais, mais là, il n'y a pas besoin de 5 plans pour cette action, en fait. Enfin, faut arrêter.
C'est Olivier Mégaton.
Bah, c'est le surdécoupage Michael Bay, en fait, quoi.
Bah alors, exactement, parce que tu l'avais évoqué la semaine dernière, mais c'était une des théories que j'avais développées à la fac sur le cinéma de Jean-Marie Poiret, dans mes jeunes années, que donc c'est le chaînon manquant entre Tchoyark et Michael Bay, parce que pour le coup, en termes d'image, t'as une transition presque naturelle qui s'opère entre les trois. À la fois, il y a donc la filiation avec Hong Kong, et sur la vulgarité de l'image, la vulgarité du jeu des acteurs, et on va dire le côté très saccadé du découpage et du montage, c'est clairement ce que fait Michael Bay à la même époque. Il commence juste avec Bad Boys en 1995, et là, clairement, Michou, il s'est dit Jean-Marie Poiret, this motherfucker.
He's right, man. He's
He's
right.
right, that's awesome, man. Tu sens qu'il y a, enfin, il y a un vrai truc, mais c'est l'époque de la fac où on aime bien faire des théories à la con, développer des thèmes, on va dire, sur des cinéastes. À la même époque, j'avais une théorie de la temporalité molle chez Romer ou de G.I. Joe de Steven Sommers, qui était un film basinien. Mais ça, on pourrait y revenir un autre jour, mais.
Oui, mais Dédé would be so proud, ouais, tout à fait.
Ah ouais, et j'avais écrit un article à l'époque dans un magazine de cinéma de la fac où donc je parlais de la carrière de Jean-Marie Poiret et notamment donc des Anges Gardiens et de son montage. Et en fait, j'essayais de faire un parallèle avec Poulovkine, qui était donc pour ceux qui ne connaissaient pas Poulovkine, grand cinéaste soviétique des années 20 et puis des années 30, qui avait signé avec Eisenstein le manifeste du contrepoint audiovisuel, où en gros, dans mon souvenir, il divisait les montages en 5 catégories. Je crois qu'il y a contraste, temps de parallélisme, symbolisme, simultanéité et le leitmotiv. Et en gros, je voulais montrer que Poiret, dans Les Anges Gardiens, faisait un usage du montage par contraste assez novateur, parce que y a normalement chez Poulovkine et chez Eisenstein la notion de montage des attractions, c'est-à-dire qu'il y aura un élément de montage, une image qui va attirer l'œil du spectateur. Sauf que chez Jean-Marie Poiret, il amène une autre dimension en même temps que l'attraction, qui est la répulsion,
Ouais.
où tu as ce mouvement de attractivité de l'image parce que ce que tu vois soit forcément te plaît ou c'est un élément qui va t'intriguer et en même temps c'est tellement bourrin qu'en fait t'as un rejet direct.
Mais alors ça,
Attraction-répulsion.
tu pars sur la deuxième partie du film à partir du moment où il y a
Ouais ouais
les
ouais.
doppelgangers de Clavier et Depardieu qui apparaissent.
Avec
Parce que
des effets
putain,
numériques aussi.
ah mais la laideur. Oh mon Dieu, la laideur. Et puis l'absurdité. Du postulat même, en fait,
Mais
qui ne
oui.
sert à rien dans l'intrigue,
Et
en
en
fait.
plus, je crois que c'est Poiret qui en parlait. En gros, il voulait à la base écrire un truc plutôt, enfin, entre guillemets réaliste, juste un polar d'action. Et finalement, ils se sont dit, il faudrait un truc pour relancer l'intrigue au bout d'1 heure de film. Et quoi de mieux du coup que d'amener un élément fantastique qui n'a aucun rapport avec le reste, mais c'est pas grave, ça relance l'intrigue. En plus, ça permet de mettre 2 fois plus de personnages comme s'il n'y en avait pas déjà assez. Et du coup, de mettre un double négatif ou positif aux personnages principaux. Donc, gag.
Et putain, mais en plus, le ressort de gag, c'est toujours le même. C'est-à-dire qu'ils parlent à leurs anges gardiens et il y a quelqu'un qui lui dit, mais à qui tu parles? Et c'est juste ça le gag à chaque fois et ça n'amène rien dans l'intrigue, à part ces
Mais si,
putains
c'est
de
rigolo!
quiproquos de merde, en fait.
C'est rigolo!
Non,
Mais si!
mais vraiment pas, quoi.
L'abattage de Gérard Depardieu, quand je l'avais revu il y a 2 ans, quand j'avais fait mon émission sur Poiret, donc je l'avais montré, enfin, Enfin, j'avais vu avec un de mes collègues de l'émission qui n'avait pas vu le film pareil depuis sa sortie. Il disait au bout d'un moment, c'est nerveux, c'est que Depardieu, il hurle tout le temps et du coup, tu sais jamais à quel moment il va dire une réplique un peu moins forte que l'autre et à quel moment il va se retourner pour gueuler face caméra. Mais ce qui est quand même impressionnant parce que vu à quel point il gueule, t'as jamais un postillon sur la caméra, ce qui est quand même pas mal.
C'est vrai, mais après tu vois dans l'espèce de bêtisier plus que de making of à la fin que ça a dû être un enfer à tourner. Tu sens que même, enfin, en fait, ils se marrent énormément, mais vraiment tous les deux mots ils en peuvent plus et tu sens, t'entends de temps en temps Jean-Marie Poiret qui est saoulé en fait. Tu vois, non mais les gars, arrêtons, tu vois quoi.
Et du coup, tu peux aussi comprendre pourquoi peut-être toutes les scènes de discussion elles sont aussi cutées, c'est qu'en fait, il prend des bouts de réplique de prise. Et après, il les met les unes avec les autres parce que visiblement, ils n'ont pas réussi à faire une scène entière sans genre se marrer. Du coup, presque tu vois dans le montage le tournage. Comme disait Le Tra, un film est un documentaire sur son propre tournage. Et ben là, je pense que c'est exactement le cas. C'est que tu vois le bordel que le film a dû être au tournage et du coup, ça se voit au montage et ça se ressent du coup dans le produit final. Avec des seconds rôles qui pareil, apparaissent genre 5 secondes, genre Philippe Nant qui joue un chauffeur de taxi, il y a François Morel qui joue
Stewart.
ouais, voilà, dans l'avion, et c'est juste des mecs qui apparaissent 10 secondes. Alors que tu sens qu'ils avaient des scènes un peu plus longues.
Qu'ils avaient un arc narratif d'une demi-heure.
Voilà, c'est ça, sur 5 personnages, c'était une série télé à la base.
Ah mon Dieu, parle pas de malheur. Bon, alors pareil, énorme carton, enfin, de
Ouais.
façon incompréhensible, presque 6 millions d'entrées, 5 millions 7, ce
Alors
qui
moi je comprends tout à
est...
fait, personnellement c'est un film que j'aime énormément, qui me fait vraiment beaucoup rire, que je
Mais
revois au moins tous les ans.
comment,
Et
mais
je sais
pourquoi?
que...
Qu'est-ce qui te fait... Un gag qui te fait rire.
je sais pas, c'est un tout, c'est... Je pense que...
C'est
Tu vois...
diégétique.
c'est comme un concert de punk, parfois les morceaux pris séparément sont pas terribles, mais l'énergie du live est là, tu vois.
C'est un film qui a un tesson dans la main et des baskets oranges, c'est ça?
C'est ça,
Ouais, d'accord.
exactement. Et en plus, je sais que c'est un film où pendant longtemps je me suis senti assez seul. Tu vois, genre, on n'était pas beaucoup à l'aimer, on était une genre d'amicale, tu vois. Et
Vous bougiez des signes dans les bus, tu vois.
c'est ça.
Comme
Mais
des
c'est Tara
pharassons.
Hagen comme pain.
Ouais.
On allait à la boulangerie, on disait Hagen comme pain. Et je sais plus, c'était genre une petite dizaine d'années, j'étais un grand raout de famille et tout, de machin, nanana. Moi en général, je suis le mec chiant parce que, genre, vu que j'aime le cinéma, en général, du coup, je suis forcément le mec qui aime pas les films, tu vois, et qui fait ouais, mais non, ouais, mais ça c'est nul, gna 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 gna. Et à un moment donné, on parle avec tous mes cousins, et en fait, et je crois que j'ai une de mes cousines qui fait un bon film, Les Anges Gardiens, et là, toute la table fait waouh! Genre tout le monde était unanime. Ça fait marrer toute la famille. Là je me suis dit, ah bah voilà, il y a quand même un truc de cohérent. Ça vient pas de nulle part.
C'est bon, je suis au bon endroit.
Exactement, je me suis pas gouré de famille.
Alors, on arrive au Visiteur 2, les couloirs du temps.
Le
On
meilleur des
est
trois, comme dans toutes les trilogies.
alors,
C'est le Mad Max 2 des visiteurs, clairement.
c'est le parrain 2.
Voilà. Plus haut, plus fort, plus loin, plus ambitieux, plus tout. Peut-être trop même. C'est peut-être son défaut.
Alors, calme-toi, je t'en
J'ai
supplie,
envie de
je
dire
t'en
que c'est le même
supplie,
défaut
calme-toi.
que Le Jour et la Nuit pour Bernard-Henri Lévy. Il a voulu faire trop, trop beau, trop fort,
Faut tout,
trop grand, trop
ouais.
tout.
Mais il n'y a pas de bonus, je crois, sur le DVD des Visiteurs 2 qui.
Non,
Anatomie
malheureusement.
d'un massacre, oui, pour
Il y
la
a par
réception
contre
critique.
un. Ça se trouve sur YouTube, il y a un petit making-of qui dure 25 minutes qui est genre des bérolles de tournage. Qui est assez
Ouais.
intéressant de voir un peu comment il bosse, comment est-ce qu'il dirige ses acteurs.
Alors, film que je n'avais pas revu depuis l'époque, donc pareil, plus de 25 ans.
98.
Et putain,
Ah ouais, hein.
oh la
Ah
vache!
ouais.
Non, 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 mais non, 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 mais je t'en supplie, calme-toi. C'est-à-dire que je suis incapable de te dire de quoi le film parle, quel est le projet, ce que ça raconte. J'ai l'impression que c'est une suite de digressions sans fin, toutes plus agressives les unes que les autres.
Je t'ai dit, c'est du free jazz.
C'est non 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 non, c'est les tambours du Bronx.
Ah merde, non! Oh non! C'est dégueulasse!
C'est les tambours du Bronx qui font une
Salaud!
répète de free jazz, ouais, si tu veux. Ouais. Mais ah, non, mais moi je n'ai rien compris. Tu vois, j'étais concentré. Si j'ai fumé avant, j'ai fumé avant, mais j'étais quand même concentré. Tu vois, mais ça m'empêche pas de suivre les films. Au contraire, parfois ça m'aide.
C'est même mieux.
Mais là, j'avais l'esprit qui disait non mais. Non mais débranche, laisse-toi aller, ça suffit, on n'en peut plus. Je sais pas, j'ai enchaîné ça avec les anges gardiens et putain, non mais j'en pouvais plus à la fin en fait.
Tu sens vraiment qu'il s'est dit, tiens, avec les anges gardiens, ma manière de monter, bah ça a super bien marché, je vais faire pareil, mais
Mais
encore plus
oui.
fort.
Mais putain, mais
Parce
c'est,
que
mais.
là, putain, alors c'est même pas que c'est la foire au faux raccord, c'est que c'est genre permanent.
Non mais au bout d'un moment tu débranches en fait. Tu
Voilà.
débranches, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu vas regarder les faux raccords dans Les Visiteurs 2 en fait? Tu vois, ça n'a pas de sens. C'est.
Le film est un faux raccord.
Ouais, c'est ça. C'est comme si tu regardais Star Wars en disant ah là, c'est pas crédible. Tu vois,
Et voilà.
c'est pas ça le
Erreur
projet en
de
fait. C'est
film.
pas ça le sens. Et tu vois, je suis en train de regarder de lire le résumé quand je te parle. Et
Ah bah c'est
non.
touffu, hein.
Non, Non, c'est-à-dire que oui, ils vont dans le passé, ils reviennent, ils boivent la potion, ils se trompent de potion, et puis c'est pas grave, et puis hurlement, et puis.
Et encore plus de personnages.
Non, putain. Et si, il y a un truc qui m'a un petit peu pas interloqué, mais je me suis dit, ah tiens, c'est marrant pour l'époque, c'est plutôt bien fait, c'est la substitution dans le résumé de l'épisode précédent du début
Oui.
de Valérie Le Mercier par Muriel Robin.
Voilà, qui pour moi est quand même un des seuls défauts du film. Un des seuls vrais défauts du film, c'est Robin qui imite Le Mercier. Alors
Ouais.
déjà que ça a toujours été une comédienne, on va dire, pour le moins limitée. Elle essaye d'imiter Valérie Le Mercier, qui
Ouais.
déjà faisait pas un taf de ouf, comme on l'a dit. Du coup, ça marche encore moins bien.
Ouais,
Ce
non,
qui, en
c'est.
plus, qui est à la fois pas cool du tout, ni pour Robin, ni pour Le Mercier, quoi. De genre devoir faire une imitation de ce qu'a fait une autre comédienne, plutôt de genre apporter son truc à elle, éventuellement, tu vois.
Le premier moment, je crois, où j'ai ripé, vraiment, où je suis parti loin dans ma tête, c'est quand il y a l'incendie, et qu'il y a les pompiers qui essayent d'éteindre le
Ah
feu.
putain!
Le
Ah.
découpage de cette scène m'a
Ah.
rendu fou.
Coupez-le, coupez-le!
Mais pas dans le bon sens, mais vraiment fou au sens pathologique, criminel, peut-être même du terme. Tu vois, enfin,
Faites
j'ai
entrer
mais dit, mais
l'accusé.
qu'est-ce qui se passe? On est où? Et tu vois, moi, je regarde des films indiens. Qui prennent des bécherelles de grammaire cinématographique et qui les jettent au feu,
Déchire.
tu vois, pour se réchauffer. Mais à côté de ça, putain, mais
Parce
c'est
qu'en plus,
d'une
tu veux dire, Jean-Marie
violence.
Poiré a influencé le cinéma indien, comme quoi il est vraiment partout, hein.
Il est, oui, il contrôle les verticales et les diagonales,
C'est la pierre de rosette du cinéma moderne.
mais putain, quelle violence, quoi. Quelle
Ah ouais,
violence. Il y a des moments
Ah,
que
c'est
je
le level
ne.
hardcore.
Ouais. Il y a des moments que je ne comprends pas dans le film, que je n'arrive pas à m'expliquer. Il y a un moment où, par exemple, Jean Reno et Christian Clavier, je crois que c'est quand ils piquent la fourgonnette et que la fourgonnette les fout dans un
Ah
espèce de
oui.
village en vrac. Pareil, scène coupée en dépit du bon sens avec la fourgonnette qui dévale une pente et eux ne sont même pas secoués. Enfin bon, bref, passons. Et en fait, t'as une nana dans le village qui les voit passer, qui les prend pour des gendarmes. Et qui leur dit, ouais, est-ce que vous pourriez faire peur à mon fils pour qu'il fasse ses devoirs? Et là, t'as un plan d'un ado qui regarde la télé ou qui joue aux jeux vidéo, je
Ah
sais plus. Et en fait, il a une casquette et sa casquette fait des mouvements de va-et-vient vers le haut. Mais pourquoi?
parce que la
Mais.
musique est tellement forte.
Non.
Mais oui, c'est
C'est
ça.
ça.
Mais oui.
La musique est forte et ça fait monter et descendre sa
Bah bien
casquette avec
sûr,
ses cheveux.
enfin.
J'ai tellement de
Eh oui.
questions. J'ai tellement de questions, Thomas. J'ai tellement de.
Alors
Quoi?
écoute, on va reprendre le film plan par plan.
Mais la enfin, d'accord, ok, non mais non, j'allais dire soit, non, pas soit du tout, soit du tout. Et il y a plein de, non, ça c'est vrai que c'est particulièrement grotesque, mais le film comme ça t'emmène d'un endroit à l'autre au petit bonheur la chance. T'as l'impression que c'est complètement improvisé en fait, qu'il y avait une espèce de ligne narrative, mais qu'ils l'ont jeté au feu comme le bécherel de grammaire cinématographique. Et putain, moi le film m'épuise en fait. À la fin, moi j'ai envie de dormir en fait.
Ah mais oui, c'est un film qui est exténuant. C'est un film qui, qui pareil, ne s'arrête strictement jamais. D'autant que là, Christian Clavier passe vraiment la vitesse supérieure en termes d'abattage. En plus, il joue encore plus de rôles. Et là, pour le coup, c'est vraiment plus que Jean Reno qui est mis, je trouve, un peu en retrait. Là,
Oui.
par contre, Clavier, il prend vraiment toute la place et il est là tout le temps, et il essaye toujours de, on va dire, d'inventer de nouvelles répliques qui sont supposés rester dans les mémoires, comme le COK du premier, donc cette crunch, j'ai donné à boire à Polo, c'est un bon compagnon, Polo, et des machins comme ça, où vraiment il creuse encore plus le côté dégueulasse et hystéro de son personnage. À l'usure, ça peut fonctionner, mais même sans usure. Et moi, c'est vraiment un film qui me fascine en me disant comment est-ce qu'on peut balancer genre autant de pognon pour tourner autant de conneries.
C'est encore une question.
Et je trouve le film fascinant, à la fois, oh bah du coup, et surtout, donc notamment en termes visuels, de voir à quelle limite il arrive. Là, t'as un peu l'impression que c'est quand même l'extrême du cinéma de Poiré en termes visuels, en termes de découpage, en termes de direction d'acteur, on va dire. C'est vraiment la limite de limite. C'est comme Tony Scott, il fait Domino en 2005, et genre l'extrême limite de ses expérimentations visuelles. Les Visiteurs 2, c'est pareil. Dans un registre différent, certes, mais...
Ouh, je sais pas. Ouais, si, remarque, ouais. C'est vrai, j'allais dire, ma femme s'appelle Maurice, mais c'est vrai que les visiteurs 2, c'est encore plus agressif. Et je te demandais, tu vois, par rapport au cinéma de Hong Kong, à quel point Jean-Marie Poiré peut le connaître, on est tombé sur un film, pendant qu'on faisait la rétrospective Maggie Cheung, qui s'appelle The Iceman Cometh, qui s'appelle Les Guerriers du Temps, du coup, en français. Alors, c'est un film de Clarence Fock, Fock Yulung, qui date de 89, avec Yuen Biao. Et c'est un guerrier médiéval chinois qui se retrouve à Hong Kong, à l'ère contemporaine, qui est
Ça va.
accueilli par Maggie Cheung, qui l'emmène dans son appartement, où il découvre un interrupteur, il fait jour-nuit, 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 où elle l'emmène dans les toilettes, et où il boit l'eau des toilettes. Je me suis demandé, enfin, on s'est tous demandé d'ailleurs. Après, voilà, c'est des gags qui sont universels, n'est-ce pas? Et
Ouais,
puis
parce que tu vois,
de.
t'as son ce truc d'un chevalier dans l'époque moderne, ou bien l'inverse. C'est le postulat du bouquin de Mark Twain, un chevalier à la cour du roi Arthur, ou je sais plus. Ils avaient même fait une version début 2000 avec Martin Lawrence qui arrivait à la cour du roi Arthur. Enfin, c'est le genre de décalage temporel qui en général propose des situations croquignolesques.
Le monomythe, Joseph Campbell, toutes
Bah
ces merdes,
exactement tout ça.
voilà. Hein, mais moi je te dis, les visiteurs 2, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Enfin, je te dis, je n'arrive pas à comprendre ce que raconte le film, comment il le raconte. C'est d'une agressivité qui, voilà, moi me laisse pantois et un peu comme un petit animal blessé, tu vois. Je...
J'ai revu une bonne partie du film ce matin, et
Ouais.
je vraiment en fait sur plein de micro-séquences ça fonctionne super bien. T'as des petites répliques en fait qui fonctionnent hyper bien, et ça me fait moi vraiment marrer. Sur genre juste des, mais qui en plus en général sont des répliques d'agressivité, parce que ça fonctionne quand même sur ce registre-là, sur le côté
Ouais.
le côté un peu féroce quoi.
Ouais. Et ouf, quel enfer. Quel enfer. Et c'est tellement l'enfer que j'ai regardé le film suivant et je me suis dit, oh tiens, pas mal.
Bah c'est vrai qu'on le revoit, je dis bah tiens.
Donc le film suivant, c'est une aberration totale. Mais pourquoi pas? C'est le remake américain, Just Visiting, les visiteurs en Amérique. Alors quand même, les visiteurs 2 fait lui aussi 8 millions d'entrées. Alors ça,
Ouais,
pareil.
quand même, hein.
Est-ce que tout le monde prenait de la cocaïne en France en 98? Peut-être, je ne sais pas.
C'était peut-être légal à l'époque, hein.
C'est peut-être légal, ça fait voilà.
On les trouvait dans les pharmacies.
C'est ça. Et donc oui, voilà, il est projet initié par John Hughes qui voit les visiteurs, qui se dit mais
Ouais.
génial, mais super, faisons un
Qui est
remake
crédité au générique, hein, d'ailleurs,
tout
comme
à fait,
co-scénariste, je
comme
crois.
co-scénariste, absolument. Et on arrive sur ce truc qui est absurde, quoi, qui est absurde, où il y a quelques touches de la patte Jean-Marie Poiré, mais
Ouais.
où il est contraint, où il est plus calme.
Il a signé sous un pseudonyme parce qu'il était très mécontent de la manière dont le tournage s'est passé avec les Américains, des conditions qu'il lui avait imposées et du produit fini. Donc il le signe sous le nom de Jean-Marie Gobert, c'est vraiment le roi du pseudo. Et
Ouais.
Et il y a un montage différent pour la France et pour les USA. En France, il est un peu plus long avec quelques mini-scènes en plus qui, on va dire, enrichissent un petit peu la psychologie des personnages.
Calme-toi, je t'en supplie.
Mais qui donc est un vrai remake où c'est
Oui.
pareil, où les mecs ils sont envoyés à l'époque moderne, sauf que c'est à New York ou à Chicago, je sais plus.
C'est à Chicago.
Ouais, donc à Chicago, et donc il va tomber sur sa petite fillotte qui est jouée par Christina Applegate, qui à l'époque sortait de Marier deux enfants.
C'est ça.
D'ailleurs, elle était très mécontente du choix de casting parce que lui, il voulait plus une actrice un peu classe à la Suzanne Sarandon, et ils lui ont foutu une petite starlette de la télé, donc ça déjà, il était très mécontent, j'imagine.
Qui se débrouille, cela
Bah,
dit, tu vois.
qui fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a à faire.
Plus étonnant, puisque Jean Reno, il a fait quelques films quand même aux États-Unis, mais Christian Clavier joue en anglais, il faut le dire. Son personnage ne s'appelle plus Jacouille la Flipouille, mais André le Pâté. Et ça, waouh, ça fait une dissonance cognitive assez folle, hein. Tu vois ce que c'est l'effet Mandela? Tu vois, où t'as l'impression qu'il y a un truc qui n'existe pas et que t'es le seul à avoir vu, t'as fait un bond dans une réalité parallèle. Bah, quand tu regardes Just Visiting, c'est ça. Tu es en pleine dissonance, effet Mandela.
C'est
T'as dit,
surprenant.
qu'est-ce qui se passe? Mais après, il y a quelques adaptations qui sont pas mal. Tu vois, le fait qu'ils arrivent vraiment dans une mégalopole américaine, ils jouent un petit peu de ce décalage-là, pas longtemps.
Ouais, bah juste quand ils sortent du musée où bosse Christina Applegate, tu sens le genre, ah putain, le chaos de la vie, les buildings, le monde dans la rue, mais c'est une scène et demie, quoi.
Oui, puis il faudrait y refaire tous les gags. C'est très sage, c'est incroyable à regarder parce que c'est absurde, en fait. Tu vois, effectivement, Christine, le gars, tu vois, Malcolm McDowell.
Alors ça, j'allais y venir. Malcolm McDowell qui joue le mage
Ouais.
avec une barbe nanarde.
Ouais.
Alors là, on dirait Steven Seagal dans Échec et mort, quoi. C'est la même barbe nanarde.
Ouais, mais après, c'est l'époque où il faisait un peu n'importe quoi. Enfin, c'est une c'est
Ouais, c'est
bon.
genre les 40 ans de carrière de Malcolm McDowell.
Tu vois, il faisait des trucs genre Ken le survivant le film à la même période à peu près.
Oui, il était
Donc
pas
bon.
à sa première connerie près, hein.
Non, et alors, par contre, ce qui est très étonnant, c'est que le personnage de Marianne Chazelle est remplacé par Tara Reid,
Qui sortait
qui
de où?
American Pie. Et André Le Pâté et Tara Reid, moi j'étais pas prêt. J'étais pas prêt.
Ouais.
Qui vont faire les magasins à Pretty
Ouais.
Woman et qui vont en boîte de nuit, je fais non, non, ça n'existe pas.
Ils vont en boîte de nuit où André le pâté genre subjugue la foule en montrant ses pas de danse.
Voilà. C'est le fameux mème avec le psy et le mec. Et ce André Le Pâté, il est dans la pièce avec nous. Voilà, c'est ça.
Mais tu sens en plus que Reno et puis Clavier sont pas super à l'aise dans le truc. Je sais
Non.
pas, surtout pour Clavier, je sais pas si c'est à cause de l'anglais, parce que Reno il se démerde comme il se démerde quand il fait des films américains. Mais Clavier, tu sens que du coup il est en sous-régime.
Ouais.
Tu sens que t'as l'impression qu'il marche sur des œufs, ils se disent ah ouais mais c'est un film américain, ça va être des gros budgets, c'est peut-être notre porte d'entrée pour aller faire des films là-bas, des trucs comme ça. Donc tu sens que il est un peu sur la réserve quoi, tu vois. Il a mis le frein
Ouais.
à main. Il accélère quand même, mais il a mis le frein à main.
C'est ça. Il manque quelque chose, il manque de la saleté, il manque de la haine des pauvres, vraiment, en fait.
Voilà, il manque cette vulgarité intrinsèque au cinéma de Jean-Marie Poiré. Parce que
Le côté sale.
Comme le disait un grand critique rennais, peut-on être génial sans toucher du doigt la vulgarité? Je vous le demande.
C'est une très bonne question, très bonne question. Je suis sûr que c'est une personne exceptionnelle qui la pose
Oui,
et
absolument.
qu'on l'embrasse.
Évidemment.
Voilà, donc petit film, Les Visiteurs en Amérique, mais
Mais quand
à
même,
voir, parce que
à la
étonnant quand
fiche
même.
technique, aux effets spéciaux, parce que là, pour le coup, il en rajoute notamment avec un putain de dragon qui sort du chaudron de la sorcière,
Oui,
c'est
c'est vrai.
Buff. Et McGuffline, quoi, qui était quand même les mecs au
Ouais.
top en France à l'époque et qui même le sont encore maintenant. Et tu dis qu'ils ont genre bossé là-dessus. En fait, après, le film qu'ils font après, c'est Vidocq de Pitoff. Hein. Et pour le coup, en termes visuels, tu sens l'influence. Hein. Aller faire des courtes focales sur le nez de Depardieu, mais pendant 1 heure et demie sans s'arrêter. Jean-Marie Poiré l'a fait, je peux le faire, mais plus fort.
Ouais, c'est ça. Ah mon Dieu. Et bah, voilà, petit succès en France. Petit succès, 1,2 million.
Oui.
Voilà, curiosité, curiosité, curiosité.
Voilà, parce que je pense que les Français n'étaient pas dupes.
Non. On ne nous la fait pas, monsieur.
Ah non, 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 on sait reconnaître un produit d'importation mal fait face au vrai produit AOP.
Et alors là, OP.
Alors là.
Là, on y arrive. On y arrive.
Alors
Une
là.
femme s'appelle Maurice. Film
Alors là.
franco-allemand, adapté de la pièce de Rafi Chart.
Que j'ai vu.
Tu as vu la pièce de Rafi Chart?
Elle est sur YouTube en entier. Elle est plus longue que le film, hein. Elle fait 2 heures. Elle fait 2 heures et là, c'est quand même vraiment dur. Hein.
Oui, bah oui.
C'est vraiment dur parce que déjà, donc le texte de base est quand même pas oufissime, on va pas se le cacher. La mise en scène théâtrale est d'un vaudeville plat classique, on va dire. Alors que la marque d'un vrai auteur, ce qui fait l'intérêt de Ma femme s'appelle Maurice, c'est quand même la mise en scène pour le coup. C'est ça qui te dit à quel point, genre, tu dis waouh, mais qu'est-ce que je regarde?
Mais alors, on est sur le, je sais pas, comment qualifier ça en fait? C'est du méga boule, du Uber méga boulevard en fait. C'est du
Uber
boulevard.
Boulevard, c'est pas mal. Uber
C'est
Boulevard.
du boulevard de combat. C'est
Exactement.
du boulevard de guerre en fait. C'est
C'est le Transformers 2 du boulevard.
mon Dieu, on a un espèce d'arriviste nouveau riche qui profite de la fortune de sa femme, qui est joué donc par
Philippe
Philippe
Chevalier,
Chevalier.
qui est
Voilà.
nul! Qui est
Ah, qui est,
nul!
mais qui a toujours été
Ah
consternant, hein,
ouais, et même dans leur sketch et dans leur pièce de théâtre, parce que... Un ami m'a offert il y a quelques années le coffret intégral de tous les spectacles de Chevalier et Laspalès.
Un
J'en
ami,
ai
donc.
maté un, c'est quand même terrible. Hein.
Ouais, ouais, ouais.
Ne faites pas ça chez vous. Hein. Je ne vous recommande pas.
Est-ce qu'il y en a qui ont essayé et qui ont eu des
Il y a eu des
problèmes, par
problèmes.
exemple? Ouais, voilà. Donc, on a ce type-là qui essaye de s'envoyer une petite gonzesse jouée par Alice Evans, une actrice, ma foi, qui essaye de profiter de son entrejambe pour
Une actrice.
rencontrer des gens. Voilà, une actrice qui existe. Voilà. Et qui est mariée à un vendeur de voitures joué par Götzotto. Alors, putain, Götzotto, faut en parler. Acteur allemand
Quand même,
qui...
et quelle filmographie aussi, hein.
Ah bah oui, lui, oui.
Un homme de main dans un 007 avec Pierce Brosnan, Demain ne meurt jamais.
Il est pas dans Beowulf avec
Il
Christophe
est dans
Lambert.
Beowulf, il
Il
est
est
dans
dans
Beowulf
Beowulf,
avec
hein,
Christophe Lambert, hein, pas celui de Zemeckis, hein,
oui.
bien sûr. Hein.
Bien sûr. Bien sûr.
Et qu'on retrouvera à la fin des Visiteurs 3.
Oui, tout à fait, dans le rôle d'un nazi. Mais,
Eh
quoi
oui,
d'autre?
bah évidemment, il est
Il
allemand.
est dans ses films de merde, là, Iron Sky, où il joue un
Ah
nazi,
oui, c'est vrai.
voilà. Enfin, grand acteur, grand acteur. Voilà, un corps, surtout, une musculature, un élancement. Et donc, Marie Jaloux, qui poursuit sa femme à Venise, en goguette avec Philippe Chevalier. Et Philippe Chevalier revient chez lui à Paris, à Montmartre. Sa femme va à un défilé avec ses parents et on sent qu'il y a de l'eau dans le gaz. Il doit revendre l'appartement à un couple joué par Martin Lamotte et Anémone. Et alors là, c'est là pour vous montrer un petit peu le niveau d'écriture de la pièce originale. Ces époux qui doivent acheter l'appartement s'appellent Monsieur et Madame Trois Balles. Voilà. Donc on en est là. Et du coup, Alice Evans, donc la jeune maîtresse parjurée, revient à l'appartement et menace de tout casser. Et là arrive
Alors là,
Maurice Lapin, Régis
avec deux P
Laspalès.
comme un lapin.
Voilà, il fait les petites oreilles avec ses mains à chaque fois. Enfin bon, gag. Et Régis Laspalès, du coup, c'est un employé du secours fraternel qui veut récupérer des vêtements, qui est très collant, qui est très insistant. Et Philippe Chevalier a l'idée géniale de le faire passer pour sa
Ah bah
femme.
ouais.
Voilà, en faisant sortir son côté féminin. Et alors, très honnêtement, moi j'avais un souvenir apocalyptique du film. Vraiment. Tu vois, c'est ce genre de film. Comme Les Bronzés 3, comme Pédale Dure, comme Disco de Fabien Antoniente,
Ah
que je vois dans
putain.
des salles pleines où tous les gens rient, et moi je suis terrorisé en fait. Je suis terrorisé parce que je vois ce qui se passe à l'écran, j'entends les gens rire, je me dis mais...
Un jour, François, il faudra que tu reviennes sur la carrière de Fabulous Fab, hein, parce que Disco, c'est clairement son meilleur film.
Antoniente, ouais.
Ouais.
Oui, c'est ça qui est terrible d'ailleurs. Mais... Le... Bah, je... J'allais dire j'aime bien. Non, je trouve Turf pas si affreux que ça. Mais on y reviendra si tu veux, effectivement. Je sais pas, les auditrices et auditeurs, si vous êtes encore vivants à ce stade du podcast, dites-nous si vous voulez. Si vous voulez qu'on fasse la filmo de Fabien Antoniente, on verra. Je suis perdu.
Alors.
Et oui, et je vois, ma femme s'appelle Maurice en public, et j'en ai un souvenir apocalyptique, vraiment, avec les gens qui riaient. Et moi, j'étais. Voilà, je dis souvent, moi, quand je suis mal à l'aise devant un film, je me cache dans mon t-shirt. J'ai passé le film caché dans mes vêtements, en fait. Enfin, je suis sorti, j'ai mis des lunettes noires, tu vois, en partant. Enfin, c'était vraiment un walk of shame. La sortie de ma femme s'appelle Maurice, c'était un walk of shame.
On y reviendra après parce que moi ça m'a fait ça avec un autre film sur lequel Poiré était associé.
Ouais, les gars, où?
Non, sur On ne choisit pas sa famille.
Ouh, putain, quelle histoire ça aussi, ouais. C'est le film de Christian Clavier, en fait.
Ouais. Que à la base, Jean-Marie Poiré devait réaliser et qui s'est pas
Ouais.
fait pour je ne sais quelle raison. Et donc c'est Clavier qui s'est retrouvé donc à le faire. Et c'était un film que j'étais allé voir en avant-première dans un cinéma à Rennes. Et juste avant de le voir, j'étais à une projection d'un film de patrimoine, donc de l'aventure de Madame Muir de Mankiewicz. Et dès que le film de Mankiewicz s'est terminé, avant même la fin du générique, je me suis précipité pour aller prendre le métro pour aller dans l'autre cinéma pour le voir parce que je voulais pas louper le début. D'autant que Christian et Muriel Robin venaient présenter le film, quoi. Donc moi j'étais chaud patate, la salle était surgonflée, c'était blindé de monde, et c'est la première fois que j'ai eu honte d'être dans une salle de cinéma.
Eh ben
Mais
oui.
vraiment, j'avais honte, je me suis dit, putain, mais genre, mais quel enfer, quelle horreur, quoi. Et le truc que je me suis dit, parce qu'il est sorti fin 2011, je me suis dit, si ce film la cartonne, Nicolas Sarkozy repasse. Parce que vraiment, le truc était ignoble. Je me dis, et
Ouais.
je suis sorti, j'avais honte. Mais je me suis dit, il faut pas que des gens me voient, quoi. Il faut que personne ne sache que je suis allé voir cette merde. Et là, je croise un pote à moi qui était là aussi. Il fait, ah ouais, machin, Thomas, t'es là. Alors le film, je fais, oui, non, bof. Il
Oui.
fait, lui me fait, c'était super drôle. Et j'étais, putain, merde. Non, je ne vous connais plus, monsieur. Non, j'étais outré. Donc je comprends tout à fait ce sentiment, même si je ne le partage pas sur Ma femme s'appelle Maurice.
Mais sur Ma femme s'appelle Maurice, je suis. Alors j'ai parlé avec un camarade qui était pas du tout d'accord avec ce qu'on disait, enfin ce que je disais sur le personnage de Katia dans Le Père Noël est une ordure. Là, bizarrement.
Ça passe.
Non, ouais, j'étais moins gêné parce que le film est tellement branquignol en fait.
Ouais. Et c'est surtout que quand même, il y a un truc qui je trouve rehausse clairement le film parce que donc le duo de base est quand même pas génial, hein. Clairement un bilan mitigé, on peut le dire. Mais Las Palès, du moment où il apparaît au bout de 12 minutes 25, là tu sais que le film va partir sur autre chose. Et Las
Ouais.
Palès, il se donne mais à fond. Il est au taquet. Il a toutes les meilleures scènes, il a toutes les meilleures répliques face à l'autre qui galère pour essayer de faire des trucs de merde. Las Palès, comme on dit en anglais, il est on fire, si je
Oui,
puis dire.
mais il a une réplique en anglais d'ailleurs, la
Ah
fameuse
ouais.
Beware la
Beware la
mouche.
mouche! Beware! Quelle scène quand même!
Mais il y en a plusieurs d'ailleurs. Et c'est ça que j'ai trouvé étonnant à la revoyure, c'est que Jean-Marie Poiré, tu sens clairement qu'il essaye de le pousser dans la dimension clavier de la force,
Ouais.
et que Régis Las Palès reste bizarrement digne.
Oui.
Mais il a des envolées de temps en temps, hein. Le Beware la mouche, c'est pas possible. Mais tu sens qu'il est à contre-temps
Quand il
avec,
chante
avec Poiré.
du Frédéric François, quand il fait c'est
Oui.
bizarre, les gens qui ont deux noms, François, Valérie, Claude, François, je suis une femme amoureuse. Et là, d'un coup, il est comme emporté dans un élan lyrique.
Il est à contre-temps avec la mise en scène de Jean-Marie Poiré, moi je trouve. Alors
Voilà.
que Chevalier, dans sa vulgarité, chevillée à l'être et au corps et à l'âme, il est complètement dans ce registre de merde-là, tu vois, quoi.
Ouais.
Las Palès, effectivement, c'est une valse.
C'est voilà, c'est un électron libre, tu vois,
Ouais.
qui se balade dans le cinéma et les courtes focales de Jean-Marie Poiré, un petit peu comme un élément qui vient illuminer le film par période, où d'un coup tu dis ouais, ça devient un peu chiant, même si c'est blindé de second rôle que tu reconnais, genre il y aura genre Guy Marchand, il y a Stéphane Audran, je sais plus qui, t'as Jean-Pierre Castaldi, des machins comme ça qui passent, Raphaël Mezrahi, et là d'un coup t'as Las Palès qui passe comme une comète, où tu dis ah oh, c'est beau, puis après c'est ah oh, merde, il y a l'autre chevalier qui revient, et Las Palès vraiment il est incroyable, vraiment, il emporte l'adhésion.
Oui, quand il. Même ces scènes qui sont potentiellement atroces, où Johnny, donc Guts
Ah
Otto,
oui.
cet acteur allemand,
Ah, le drague.
ce corps, voilà, où il essaie de se venger un petit peu de sa femme adultère, et il essaye de draguer et de besogner, en fait, Régis Laspalès en femme, mais cette façon dont Régis Laspalès reste digne dans le vaudeville, dans le boulevard.
Mais c'est la manière dont il se tient aussi qui est genre
Oui.
beaucoup trop rigide.
Il y a un truc, vraiment, il y a quelque chose, quoi. Et tu
Il y
vois,
a un
même
physique comique,
dans
quoi.
un film que j'ai pas aimé du tout, Mon crime de François Ozon, Laspalès est super dedans. Laspalès est
Bah
super
écoute,
dedans.
j'ai hésité à aller le voir. Au début, je pensais pas parce qu'aux ans, j'ai arrêté après 8 femmes, donc ça fait un petit moment. D'ailleurs, c'est le seul que j'ai
Oui.
vu. Mais dans l'abondance, j'ai vu qu'il y avait l'espèce. Et puis là, j'ai fait, oh merde, je vais devoir le voir. À un moment
Mais
donné, je vais devoir le
alors.
voir.
Je ne vais pas poucave ma source, mais dans un festival, il y a de ça très très longtemps, on m'avait raconté une histoire dont j'aime à penser qu'elle est vraie. Je ne sais absolument pas si elle est vraie, mais quelqu'un qui nous racontait, il y avait quelqu'un qui avait bossé avec Laspalès et Chevalier, et il nous faisait Philippe Chevalier, en fait, c'est une espèce de vieux beau qui sort qu'avec des gonzesses, qui a des super bagnoles de sport, machin. Et Laspalès, c'est quelqu'un qui vit dans la même chambre de bonne avec son père depuis 30 ans, mais ils sont riches par contre à millions parce que leur
Ouais.
spectacle coûte rien et les places coûtent cher et voilà. Et apparemment, Laspalès, la légende, c'était qu'il rachetait un petit village du centre de la France, maison par maison, pour y vivre avec son père. Et qu'il attendait que les gens meurent, et il rachetait toutes les maisons une par une. On était avec un copain et en fait on s'imaginait un film d'horreur où tu tombes en panne d'essence dans le village de Laspalès et son père. Et ça aurait été super, quoi.
D'autant que c'est possible parce que Laspalès, il a joué dans une pièce de Laurent Ruquier où il joue Landru. Donc tu vois, dans le rôle pour jouer un personnage d'horreur, ça marche.
Ça
T'es
marche.
lié. Ça marche. Il passe par le village de Laspalès. Il s'arrête pas.
Je vais appeler mon père, ne bougez pas. Bon, bref. Et oui,
Quel
on avait
garçon
joué
admirable.
tout le film comme ça. Et non, mais voilà, on s'éloigne de Ma femme s'appelle Maurice parce que c'est pareil, quelle violence. Moi, je l'ai vu justement le lundi de l'allocution de Macron. J'ai fait ça et je m'étais gardé Ma femme s'appelle Maurice et Les Visiteurs 3 pour ce dernier jour-là.
Bonne journée, hein.
Bah, grosse journée, grosse journée. Et Ma femme s'appelle Maurice. Quelle violence! Quelle violence, quoi! Mais parce que voilà, t'as, j'allais dire, cette grâce. Non, c'est ton exagération.
Un état de grâce, peut-être.
Tu as Régis Laspalès qui reste digne. Voilà. Mais le reste, quelle horreur! Quel enfer! C'est-à-dire qu'on est vraiment, mais dans le très fond du boulevard, de l'amant dans le placard, de ah là là, des gens qui s'appellent Monsieur et Madame Trou à balle. Oh
Bah du coup,
putain!
tu sens qu'en plus que Poiré y revient du coup à ses films des années 80, un lieu unique quasiment, à part la petite escapade au début, genre à Venise, sinon ça se passe que dans l'appartement donc de Philippe Chevalier, dans lequel débarque Laspalès. Et donc tu sens qu'il est un peu engoncé dans cet univers-là,
Avec son style de mise en
avec
scène
son style
cocaïne,
à
quoi.
lui, avec son style grandiloquent dans un espace réduit. Ce qui est un truc qui est très étonnant, donc du coup. Il se dit qu'il faut qu'il redynamise ce vaudeville ultra cliché en mettant encore plus de courtes focales,
Ouais.
plus de gens qui parlent près de la caméra, c'est très important pour qu'on voit bien la tête des personnages qui parlent, qu'ils soient très très près, et il essaye de le redynamiser. Mais vu que le texte de base est quand même tellement daubé et que
Ouais.
les trois quarts du casting est clairement pas hyper investi à part Laspalès, il y a beaucoup d'effets qui ne fonctionnent pas vraiment. D'autant que le film visuellement est quand même assez vilain.
C'est horrible. T'as Guts Otto quand même qui essaye, qui est très 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 volontaire dans son
Ah
rôle.
oui. Tu sens que là, il se dit, c'est un vrai rôle comique, je vais y aller à fond, je vais cabotiner comme les autres, je vais parler en français.
Mais il joue
Bon.
vraiment comme Jean Reno dans Opération Cornet de Biff quand il découvre la tromperie de sa femme en fait.
Oui, mais sauf qu'il joue moins bien la colère.
Il essaye.
Il
Il
essaye.
essaye.
Un acteur peut-être dramatiquement plus limité.
Et quand il est dans l'appartement et qu'il doit jouer l'ivresse.
Joue super mal.
Oh putain, oh putain, oh mon Dieu. Mais quel horrible film! Quel horrible
Moi,
film,
je
Ma
sais
femme
que c'est un
s'appelle
film que j'ai
Maurice, quoi.
vu beaucoup trop de fois. Je crois que je l'ai vu 3 fois en un mois et demi, il y a
Ouais.
2 ans. Parce que pour une raison qui m'échappe, j'ai un pote qui souvent, genre en fin de soirée, regarde des comédies françaises. Et je sais pas pourquoi ça revient régulièrement l'envie de revoir Ma femme s'appelle Maurice, alors que c'est même pas moi qui impulse cette idée, mais les gens ont envie de le revoir. Pour une raison qui m'échappe, il y a peut-être un truc fascinant dedans, un truc caché, je sais pas. Peut-être que RMC Découverte en parlera un jour dans Alien Theory, mais tu sens qu'il y a un truc qui aspire plus qu'il attire.
Ouais, et puis dans les seconds rôles, t'as les Benjamin et Jean-Pierre Castaldi. Benjamin Castaldi, tu vois Benjamin Castaldi dans un film, déjà tu te dis, oh putain, trigger warning, Benjamin Castaldi. T'as Raphaël Mezrahi qui est dans
Toujours dans
tout
les
ce
bons
qu'il
coups,
fait,
hein.
qui est affreux. Enfin, Virginie Lemoine, ça va. Tu vois,
Oui.
Virginie Lemoine, c'est moi j'ai cette image du petit théâtre de Bouvard quand elle commençait avec Laurent Gérard. Donc bon, la pauvre, tu vois,
Elle
elle est
revient de loin,
marquée à
quoi.
vie. Elle est marquée à vie en fait. Et elle ne peut rien faire. Et là, tu vois, pareil. Digne.
C'est
Digne.
bizarre d'ailleurs que Laurent Gérard ait jamais fait de film avec Poiré.
C'est vrai.
Alors que tu sens que c'est quand même un peu le même univers, à la fois l'esprit politique des personnes
Mais il y a eu une
et l'humour.
intersectionnalité évidente,
Ah oui, tu sens que ça se
ouais.
croise, ça se rejoint, il y a une communauté de pensée.
Voilà, tout à fait. Et une école. Une école même.
école, un mouvement.
Mon Dieu. Non, non, mais quel film affreux, quel film affreux, vraiment. Je le répète, je le répéterai autant de fois qu'il le faudra, mais c'est comme je le disais, je m'attendais à ce que ce soit plus ouvertement homophobe que ça n'est. C'est juste
Étonnamment calme ce niveau-là.
ouais, c'est étonnamment calme à ce niveau-là.
Homophobe sympa.
Homophobe chic,
Ouais,
hein.
oui, voilà. Parce que vu que quand même l'homophobie dans la comédie française, c'est depuis presque toujours un des tropes comiques les plus communs et les plus utilisés, alors que ça n'a jamais été drôle. Là, c'est relativement soft. Tu vois, genre,
Oui.
quand tu compares ce qu'ont fait les trous de balle de la bande à Fifi avec Épouse-moi mon pote,
Tout à fait.
qui est... Là, pour le coup, franchement, je pense que c'est un des films les plus homophobes que j'ai jamais vu de ma vie. Et pourtant, dans la comédie française, il y en a quand même beaucoup, hein. Et là,
C'est vrai.
vraiment, celui-là, c'est abominable.
Non, non, c'est haut niveau. C'est très 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 haut niveau, effectivement. Et non, mais là, c'est Régis Laspalès qui fait que tout passe, en fait.
Mais oui!
Il y a même ce moment
Où il
de
danse dans les
révélation
champs.
finale, où non,
Ah
enfin
oui!
oui, mais le moment de révélation finale où il est dans le jacuzzi avec Philippe Chevallier et où il y a les beaux-parents, sa femme, Yo
Le quiproquo se
Tsotto, enfin
révèle.
tout le monde est là, et tu vois qu'il commence à le jouer dégoûté et votre vice, tu vois, le fameux votre vice, mais comme il y a Régis Laspalès. Et qu'il a ce côté débonnaire, je viens de
Enfantin
découvrir ma
presque.
féminité, pas enfantin, pas enfantin, vraiment bonhomme.
Oui, ce côté bonhomme. Ah oui, je vois.
Et ça passe. Tu vois, c'est un, j'allais dire un trou noir. Non, c'est de l'énergie positive qui irradie, finalement. Putain, je pensais pas que j'allais faire un tel panégyrique de
C'est un
Régis
contre-trou
Laspalès.
noir en fait, l'Aspalès, tu vois.
Oui, tout à fait. Stephen Hawking n'a pas eu le temps de se pencher sur le sujet, malheureusement, mais voilà. Ou il en est mort, on ne sait pas.
C'est peut-être, oui. Toute ma vie, j'ai été dans les rares.
Mon Dieu. Pas ta meilleure imitation. Pas ta
Non,
meilleure
pas là,
imitation.
non. Hawkins, je la
Hawkins
maîtrise
qui
pas encore
meurt.
super. Hawkins
Hawkins
qui
qui
meurt.
meurt. Travaille-le,
Oui,
travaille-le.
oui.
Alors, Ma femme s'appelle Maurice, c'est en 2002. Le film fait un
Échec.
petit 700 000 entrées. Ouais, décevant. Décevant, avec un budget de 15 millions quand même. Décevant. Et Jean-Marie Poiré s'arrête.
Ça va signer, entre guillemets, sa traversée du désert.
Mais oui.
Tous les grands artistes en ont eu une, hein, vous le savez. Orson Welles, Elsa.
Tous les grands, quoi. Et
Voilà.
après, est-ce qu'on peut dire qu'il fait école, quand même, notre ami, je parlais des Gaou tout à
Ouais,
l'heure.
bah, qui est un film qu'il a produit et qu'il a coécrit, réalisé par son ancien assistant Igor
Sekulic, tout à
Segulic,
fait.
où il y a clairement, de toute façon, la marque de Poiré
Ouais.
dans l'écriture et dans le visuel. Parce que, comme disait John Milius, le véritable auteur d'un film, ce n'est pas forcément le metteur en scène, c'est la personnalité la plus forte sur le plateau. Là, clairement, tu vois que c'est Jean-Marie Poiré, quoi. Tu sens que tout hurle Jean-Marie Poiré.
Ouais.
Dans le casse, dans la mise en scène, dans l'hystérie et l'abattage forcené des comédiens, tu sens que c'est Poiré qui est derrière.
Ouais, non, c'est très très violent, hein, les gars. Si on n'est pas prévenu, c'est étrange, hein.
Tu vois, dans pas mal comme film début 2000 de l'époque, à l'époque, t'as Jean-Marie Bigard qui fait son film L'âme sœur. Il y a ce genre d'énergie aussi.
Tout à
Je ne
fait.
dirais pas d'énergie positive, mais ce genre d'énergie.
La boîte de Claude Zidi,
Oui,
c'est un petit
exactement,
peu
La boîte de
dans.
Claude Zidi. Antoniente aussi, du coup, par certains côtés, tu sens qu'il y a des trucs qui pourraient le rappeler, même si c'est moins forcené sur le filmage, clairement. Mais tu sens qu'il y a quand même ce genre d'école-là qui passe, ou en tout cas tentative de retrouver ce rythme de comédie. D'autant que c'est marrant parce que fin 90, du coup, il était un des réalisateurs qui était pressenti pour faire Astérix et Obélix, vu qu'en gros c'était genre le plus gros Wonder Boy du cinéma français dans la comédie. Donc c'est Claude Zidi qui l'a fait, mais tu sens plus que ça correspondait comme plus ou moins au truc qu'aurait pu faire Poiré, hein. En gros, c'est genre les visiteurs, mais chez les Gaulois.
C'est ça. Il y a quelque chose. Oui, puis le 1, pareil, le premier Astérix de Claude Berry, enfin, tu sens qu'il y a. C'est que juste foiré, t'aurais totalement pu faire,
Ah
tellement ça va un
oui.
petit peu dans tous les sens, de façon désordonnée.
Ah, j'aurais bien aimé voir ça pour le coup.
Ouais, je sais pas. On...
Ouais.
Et donc, les Gaou, on l'a mentionné.
Il devait faire aussi à un moment donné le Grimoire d'Arcandias, basé sur une série de bouquins pour gosses, qu'il devait faire avec Clavier, qui s'est fait sans lui du coup, mais avec Clavier quand même. Le truc a un intérêt entre le limité et le pénible.
Ouais, tout le monde a oublié ce truc.
Ah ouais, c'est. Donc on ne choisit pas sa famille qu'il aurait dû faire et qui s'est pas fait pour je ne sais quelle raison, et c'est bien dommage parce que c'est vraiment dramatique. Pour le coup, j'avais vraiment de la peine pour Jean Reno quand j'ai vu le film. J'avais l'impression que toutes les scènes, il y a notamment une scène dans une boîte de nuit où il doit foutre trois bourre-pif, j'ai l'impression qu'il faisait un arrêt cardiaque à chaque coup de poing. C'était dramatique. Mais ça, en termes d'école de comédie, je ne sais pas si Poiré, passé les années 90, qui étaient vraiment ses grosses années, j'ai pas l'impression que, ni en termes d'écriture, avec les autres films qu'a fait Clavier, et encore moins en termes de mise en scène, il y ait des gens qui essayaient d'aller sur son terrain. Je sais pas si c'est pour des questions de budget ou des questions de infaisabilité formelle. Peut-être qu'il allait trop fort, trop loin, et donc du coup ils se sont dit, pourquoi
Trop
viser
tôt.
les cieux quand on pourrait y creuser?
Ouais, non, c'est un rendez-vous manqué. L'époque lui a roulé dessus, il est passé à côté, et il essaye de revenir aux affaires avec les visiteurs 3, la Révolution, les visiteurs 4,
Alors
entre
là.
guillemets. Effectivement, les couloirs du temps se terminaient sur l'arrivée de Godefroy de Montmirail et Jacouille la Fripouille à cette époque-là, vraiment, et c'est une bonne idée, à la limite, parce
Ouais.
que ça boucle justement ce délire-là. Et c'est un film qui reste quand même... Qui
Qui
reste
reste.
même... Qui reste... Non, parce que j'ai pas envie de dire intéressant, mais qui reste
Étrange.
vraiment emblématique de ce traitement de voilà, la bourgeoisie perdue au profit des pauvres, les pauvres qui nous spolient.
Bah, surtout que plus que la bourgeoisie, ce qu'il défend, c'est l'aristocratie, c'est encore le niveau au-dessus. Tu sens que c'est vraiment plus que ce qui lui l'attire, ce côté vieille France monarchique, ce côté les valeurs avec les riches à leur place et puis les pauvres à la leur. Et les nouveaux riches, c'est que des parvenus finalement. Si vous n'êtes pas d'une dynastie, vous êtes des traîtres et vous ne méritez pas d'être à votre place. Et c'est vrai que c'est le film où sa volonté ou son discours politique est clairement le plus marqué.
Avec une ligne et une appréhension de la révolution qui fait penser à beaucoup de choses qui se disent dans les milieux très très droitiers, tu vois,
Oui, oui,
quoi.
oui. Je ne dirais pas qu'il est partisan d'un certain révisionnisme, mais pas loin quand même.
C'est vraiment ça. Et tu disais que le personnage de Jean Reno était plus effacé
Ouais.
dans le deuxième opus. Là, on est sur une disparition progressive, vraiment, quoi.
D'autant qu'en plus, avec celui-là, il surajoute encore plus de personnages secondaires, puisqu'il ramène toute la famille de
C'est
Montmirail,
fou.
avec Franck Dubosc, avec Karine Viard, avec Alex Lutz, tout ça. Il y a plein de personnages. Il y a le personnage de Sylvie Testud, qui est la femme de Jacouillet, donc, qui est jouée par Clavier. Il y a une surabondance de personnages sur un film qui est quand même relativement court, ce qui fait 1h45, mais t'as genre, sur l'affiche, t'as bien 20 noms, quoi.
Ouais, sauf celui de Pascal Zanzi, évidemment.
Oui, alors qu'il est sur l'affiche.
C'est ça.
J'ai l'affiche en format cinéma dans mes cabinets.
Je l'ai offert au camarade Daniel
Ah bah arrête.
Andreev.
Elle est juste à côté de mon affiche des Visiteurs 2 que j'ai eu dans un Intermarché dans le Périgord, VHS offert par le Conseil régional de Dordogne, puisque le film a été tourné là-bas en partie. Et ça, c'est quand même
Bien
pas de la
sûr.
merde.
Bien sûr, bien sûr. Et pour revenir au personnage de Jean Reno, on est vraiment sur un témoin passif de l'histoire en marche et qui voit le monde lui échapper, en fait, et qui ne peut rien faire à part être scandalisé, en fait.
Ouais, il
Ouais.
va pas forcément essayer d'aller contre, il va juste essayer de retourner à son époque bénie, le Moyen-Âge.
C'est ça qui est terrible en fait, c'est qu'il y a une espèce de début d'intrigue où il veut libérer le dauphin des geôles des infâmes républicains et il s'est abandonné en fait. Et les personnages disparaissent au fur et à mesure au profit de tous ces nouveaux acteurs qui essayent de se mouvoir dans un décor qui pue, avec tout le respect que j'ai pour les musées départementaux, mais qui pue le musée départemental où on aura juste enlevé quelques pièces pour faire genre, tu vois.
Alors que c'est la République tchèque, hein.
Non mais c'est le film fait est d'une pauvreté formelle indigente, vraiment. C'est-à-dire que à la limite le côté complètement allumé du bulbe de Jean-Marie Poivré, j'allais dire Jean-Marie Poiré me manque, tu vois.
Moi, c'est vrai que quand il est sorti, c'est un film que j'attendais pas, je vais pas dire beaucoup, mais j'étais quand même un petit peu excité, tu vois. Et je pense que je suis un des rares spectateurs qui a pas vraiment aimé le film parce que j'étais déçu. Genre, toutes les critiques disaient, ouais, le film est genre hystérique, machin, s'arrête pas de gueuler et tout. Donc, moi, je disais mortel, quoi. Je suis super chaud. Et en fait, j'ai trouvé que pas du tout. J'ai trouvé le film hyper sage,
Ouais.
soft, un peu mou à la fois dans l'écriture, dans les répliques des persos, à part Clavier qui a quelques bonnes scènes, comme on disait, le hurrah, c'est plus laïque, qui sort de. Donc c'est
Ah la
trop
vache, j'ai
nous ou
pas vu.
le y a plus de lait, y a plus de lait.
Oui, mais voilà, il y a juste
Mais
cette scène-là qui nous rappelle au bon souvenir du Jean-Marie cocaïnomane, en fait.
voilà et
Du Jean-Marie prostitution de focale dans tous les sens.
alors que
Et la scène
pourtant
n'a aucun sens en
non
plus,
non
quoi.
narrativement c'est juste pour montrer que Robespierre c'est vraiment le dernier des salopards.
Et ça dure 5 minutes, quoi. 5 minutes, il n'y a pas de lait. Pas de lait. C'est. Mais à la limite. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais
Le
tout
film
le reste,
partait
putain.
entre guillemets sur de très mauvaises bases parce que faire une suite directe, mais tournée 20 ans après avec tout le monde qui a pris 30 kilos et une
Ouais.
justification narrative pour expliquer pourquoi est-ce que maintenant il ressemble à des gros patapoufs, c'est que les couloirs du temps déforment la physionomie des personnes. Et t'es là, t'es
Ouais.
genre, ah ouais, c'est quand même hyper feignant. Et c'est que surtout ils sont essoufflés quoi. Tu sens que
Ouais.
Clavier il a plus du tout la patate pour jouer ça, hein.
Non, il n'y a pas de jus, il n'y a pas de rythme, il n'y a
Y
pas
a pas
de
de jus!
lait. C'est moins laïque. Non, c'est affreux. Et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et putain, tous les passages avec Dubosc, c'est
Alors que
laborieux.
pourtant, Dieu sait que j'aime Dubosc, quoi.
Ouais,
Dieu sait que, enfin,
ouais.
pas que j'aime, que j'ai une affection certaine pour Dubosc, ou en général, même quand les films qu'il fait sont pas terribles, lui, il a toujours au moins une scène ou deux où il est exceptionnel et il te rattrape tout. Et là, même pas, il a même pas de petit moment où il brille, où il sort une réplique, où il a une vanne, ou bien un geste un peu rigolo. Là, tu sens qu'il est clairement, genre, il passe à l'arrière, il sait pas du tout ce qu'il fait là et comment s'insérer dans cet univers-là parce qu'on lui laisse pas de place. Et c'est ça avec tous les seconds rôles, vu qu'il y en a tellement, il y en a aucun qui a de la place. T'as l'impression que c'est Avengers numéro 12 où t'as tellement de personnages secondaires qu'en fait les mecs tu les vois 4 secondes puis après tu le lotes quoi.
Ouais, non, c'est
Était très déçu.
pitoyable, aucun rythme, aucune envie, si ce n'est celle de cracher effectivement sur les idéaux de la révolution, sur les révolutionnaires, pleurer sur la noblesse perdue. Et non, moi, le seul truc à sauver du film, c'est la fin.
Oui.
C'est la dernière partie
Ah, qui promettait monts et merveilles quand même.
Eh mais oui, mais je me dis, mais oui, mais voilà le film que j'avais envie de voir, en fait.
T'aurais dû faire ça dès le
C'est.
début.
Donc nos héros qui se retrouvent en pleine Seconde Guerre
Ah
mondiale
là
pendant
là.
l'occupation
Ah là là.
ou avec Gutsoto qui joue un nazi comme dans la moitié de sa filmo d'ailleurs hein, j'ai
Oui,
regardé la
avec
filmo
Clavier
du
qui joue
pauvre
un collabo.
Gutsoto avec le voilà Christian Clavier qui joue un collabo avec le personnage de Jacques-Henri Jacquard en fait qui est tout jeune. Donc retour au premier film et voilà et Dubosc évidemment est devenu chef de la
Résistant. Ah
résistance.
bah ouais.
Et la famille de Christian Clavier, c'est les collabos. Voilà, on est toujours là-dessus, hein. On est toujours là-dessus.
Et c'est juste les 5 dernières minutes du film qui du coup évidemment comme c'est une fin ouverte annonce un quatrième qui probablement ne verra jamais le jour. Alors que pourtant, plus que la Révolution française qui a dévoyé la France d'après Poiret
N'est-ce pas?
et puis Clavier, là, il y avait un truc qui, quand même, était à la fois plus drôle, je pense, et plus intéressant à faire avec un potentiel quatrième. Et tu sens qu'en fait, il passe à côté de son sujet parce que finalement, la Révolution française, ça n'intéresse pas des masses, à part pour dire que la Révolution, c'est vraiment une bande de trous de balles de pauvres.
Bref, quelle tristesse, quelle tristesse. Et avec une dernière apparition en plus qui, du coup, vu la gueule du film, il y a une apparition de Jean-Marie Poiret en clôture de
En
générique de
toute
fin,
toute fin du générique de fin.
voilà, où il referme une porte sur la pointe des pieds en faisant chut. Et j'ai trouvé ça sinistre. C'est un adjectif que j'emploie beaucoup ces derniers temps dans Discordia, mais j'ai
Comme un
trouvé
chant
ça
du
sinistre en
cygne.
fait. Ouais, voilà, vu le film qu'on venait de voir, putain, c'est waouh, la tristesse quoi.
Alors que pourtant, il bosse sur d'autres trucs là qui vont se faire, qui sont en tournage. Hein.
Jean-Marie Poiret, ouais.
Ouais, il fait une série au bombeur. Adapté
Ouais.
du film avec Fernandel et puis Bourvil, qui a vu un remake lamentablement nul par Florent Emilio Siri avec Dubosc et Lanvin, pension complète, je crois, un truc comme ça.
C'est ça, ouais.
Nul à
Ouais.
chier. Mais donc il bosse quand même sur des trucs, mais.
Ouais, et puis il avait scénarisé ce film très étrange qu'on avait regretté tous les deux qu'il ne réalise pas. C'était Mystère à Saint-Tropez.
Ouais, qui est un film qui est pas si mal. Moi, ça m'a fait
Non,
rire.
non,
Si!
non. Oui, mais toi, t'es un malade. Et
Il y a des moments où je me suis dit, ah, c'est rigolo, où j'ai trouvé que Christian Clavier est en bonne forme.
ouais.
Il donnait de sa personne. Il était
Ouais.
investi.
Il était, ouais, je sais pas, il y a, ouais. Non, y a l'énergie de Jean-Marie Poiret, mais il n'y a pas le filmage, en fait.
Voilà, exactement. Ou clairement, c'est filmé comme à la téloche, quoi. C'est beaucoup trop soft.
Et tu vois, Mystère à Saint-Tropez, pour résumer, il y a le personnage de Jérôme Commander qui joue un cuisinier,
Oui, ah oui.
qui a une
Ah oui.
voix hyper haut perché.
Oui!
Et en fait, la première fois qu'il parle, je fais non, 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 il va pas faire ça. Et si, il le fait tout le long.
Il
Et en
le
fait,
tient
le
tout le
film.
film!
Voilà, et le film, c'est que ça. C'est une suite de décisions de merde.
Avec Vincent Desagna qui fait l'accent suisse-allemand. Enfin, non, même pas, il est grec en plus, mais on dirait un accent suisse-allemand.
Et le film, c'est que ça. C'est une suite de où tu dis, non, ils vont pas. Ah bah si, ils le font, et bah ils le font mal, hein, tu vois. Voilà. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis, en plus, c'était plein de promesses, parce que t'avais un générique.
Ah bah oui, à la
Et
Panthère Rose.
voilà, qui te promettait plein d'aventures de ce personnage de détective décalé, déphasé.
Le détective Boulin, pas Bourrin, Boulin, que pareil, il répète 3 ou 4 fois
Oh
dans le film.
putain.
Je t'ai dit, quand ça marche une fois, ça marche toutes les fois.
Et où en plus t'avais, je sais pas si on l'a vu en début de plein de films, ce truc, mais t'as un logo de la maison de production de Christian Clavier,
Oui.
c'était Ouïe Production, et où t'as un jacouille de la fripouille en image de synthèse
Ouais, bah
dégueulasse.
il est au début des Visiteurs 3 aussi, je crois.
Ouais,
Ouais,
d'accord.
donc je pense, j'imagine, sur quelques prods des 5-6 dernières années, il
Ouais.
doit être dessus.
À bras ouverts de Philippe de
Ah
Chauvron, on ne
putain,
choisit pas sa
enfer!
famille, homme au bord de la crise d'honneur d'Audrey Dana, mais que des chefs-d'œuvre, en fait.
Ah, mais oui, j'ai vu ça il y a pas longtemps, ouais.
Ah, c'est super, ça aussi.
Ah, c'est pas mon préféré d'Audrey Dana, hein.
Ah non, ah non.
Je préfère si j'étais un homme.
Évidemment.
Ah, bah ouais.
Ah,
Alors là.
l'homophobie à la française,
Ah
mon
là
Dieu.
là. Oui, mais pour une fois, c'est sur les femmes.
Oui, non,
Ah, tu remarqueras la petite subtilité de.
Je suis perché.
Hop
Je
là, c'est
peux
pas
pas
mal.
m'avoir. Ah non, quelle horreur, quelle abomination, ce truc. Voilà, c'était ma foi, la filmographie de Jean-Marie Poiret.
Quand même.
Je te remercie quand même, Thomas,
Ah bah merci à toi, écoute,
pour tout
monsieur.
ça.
Vous remarquerez qu'on a fait un peu plus longtemps sur la deuxième partie, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de choses à dire.
Oui, on a
Hein.
fait très long sur les anges gardiens.
On aurait pu dire
Parce
beaucoup
que.
plus.
Oui, on va à l'essentiel à chaque fois. Donc, ben, on rappelle quand même la très bonne émission qu'on trouve en podcast sur le
Oui.
site de Syllab, je crois,
Et
en
sur
attendant
YouTube,
Godard, sur
en
YouTube,
balado-diffusion.
en balado-diffusion, tout à fait, en attendant Godard, pour retrouver notre invité, Thomas El Comandante, comme on
Exactement.
t'appelle là-bas. Et puis écoutez l'émission de vos meilleurs ennemis aussi, Le cinéma est mort, Antonin, Étienne, on vous embrasse.
Et bah écoute, de toute façon, François, on t'attend un jour pour que tu viennes à Rennes fin décembre pour faire une émission avec nous.
Oh oui, pour l'émission bilan, mon
Ah oui.
Dieu, oui. Mon Dieu, oui, mais j'adore. Écoutez les émissions Bélan Commune. C'est le. Vous voyez, Avengers, de la merde.
Ah ouais.
L'émission commune Bilan en attendant Godard, Cinéma est mort. Ça c'est bien.
Là,
Ça
par
c'est
contre,
bien.
faut être bien accroché, hein, parce que c'est long.
Voilà. On sent sur la dernière, on sent toujours en fait le moment où vous ripez parce que vous
Le
buvez beaucoup
moment un peu
pendant
pâteux.
que vous buvez beaucoup pendant que vous parlez pendant 4 heures de cinéma. Et là, waouh, votre ripage, il est vraiment spectaculaire en fait. C'est
C'est comme les
non
anges gardiens, il y a un moment où ça dérape.
ça dérape complètement. Bon, merci beaucoup à toi en tout cas, et puis au plaisir.
Bah merci beaucoup François, puis à la prochaine.
Un verre de lait.